Le podcast de cette semaine est une présentation de Samouraï MMA. Vous aimez ça voir du monde se taper sa gueule? Hein? Vous adorez les sports extrêmes, pareil comme moi? Ben, assistez le 12 novembre au gala Samouraï MMA 4e chapitre. Ça se passe au Club Soda, une grosse finale entre Robert Serre et l'ex-Bellator Guillaume Dolorenzi. Et aussi au programme, les étoiles montantes Tommy Morrison, Jonathan Ramsey et Mehdi Saïven. 8 combats plus que explosifs. Ça va se défoncer. Vous allez en avoir pour votre argent. Si vous cherchez des billets, c'est au samouraimma.com. L'événement à ne pas manquer. Oh yeah! Samouraï MMA, l'événement à ne pas manquer! Ah ouais! Yes sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est votre animateur, Jerry Alain. J'espère que ça va bien. Encore une fois, un gros merci à notre commanditaire de cette semaine, Samouraï MMA. Allez voir leur spectacle. Moi, je vais souvent, hein, c'est tout le temps des combats crissement le fun à voir. Puis c'est le fun de voir des combattants locaux. Puis voir des organisations locales qui nous donnent du beau sport, de même qu'on peut voir ça en live. Fait qu'un gros merci à Samouraï MMA. Et notre invité de cette semaine, c'est nul autre que Ben Milo. Si vous ne savez pas c'est qui Benoît Milo, c'est un ancien champion de freestyle motocross, ok? Lui, il a fait le tour du monde, ok? Il a déjà participé aux X Games, il a fait plein de championnats, il a gagné plein de championnats. C'est un des premiers Canadiens à avoir participé justement aux X Games en freestyle motocross. Tu sais, les hosties malades qui font des calices de sauts pis des pirouettes en motocross. Ben, c'est ça. Lui, tabarnak, il a gagné plein de champions, plein de championnats. Fait qu'il est venu nous en parler aujourd'hui au What's Up Podcast. En plus, le gars, il est fucking nice, super drôle. On a eu une belle complicité. Je vous encourage tout le monde à aller connaître son podcast, à aller suivre ça, suivez-les sur sa page Facebook, hein, Ben Milo. Vous allez vraiment triper. Fait que un gros merci mon chum, ça a été super le fun de te recevoir. Juste avant qu'on continue le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Ça vous fait permettre en sorte, en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir écouter tous les podcasts en avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, puis c'est vraiment pas cher, hein? C'est 3-4 piastres par mois, c'est pas grand chose pour vous autres, puis pour moi ça fait toute la différence. En ce moment, il y a un podcast avec Martin Matt, il y en a un autre avec... Christ, je m'en souviens plus, tabarnak. Oh, il y en a un autre avec Steven Bilodeau, hein? Un vétéran, un ex-militaire qui a fait partie du GT Air Force 2, deuxième génération. Fait que c'est ça. Moi, ça va beaucoup m'aider. Et aussi, si vous voulez m'aider financièrement, ben vous pouvez pas le faire parce que votre budget ne vous le permet pas. Il y a toujours une façon de le faire et ça va vous coûter rien. C'est aller, juste quand vous écoutez sur YouTube mon podcast, bien important, skippez pas les annonces. Ne cliquez pas sur « passer les annonces ». Comme ça, moi, je vais avoir un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Ou sinon, je encourage tout le monde, abonnez-vous à mon channel YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, cliquez sur s'abonner, laissez des thumbs up, laissez un petit commentaire positif, ça va être super apprécié. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Jerry Alain, ou à ma page Facebook, Jerry Alain. Et n'oubliez pas, le 12 novembre, je reçois à Chicoutimi, à la place La Nuit des Temps, je vais recevoir nul autre que Horloge Simard. Fait que les billets sont sur mon site internet jerryalain.com et ça se passe le 12 novembre. On va avoir calissement du fun, Steve. Vous avez bien aimé la première fois qu'il était venu. Puis là, ils reviennent en plus en live. Fait que sur ça, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Un gros merci à Samouraï MMA. Allez chercher vos billets au samouraimma.com. Et sinon, je vous laisse un bon podcast, tout le monde. Ciao, tout le monde. Au revoir. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis très content de recevoir Ben Milo. Ça va bien mon gars?
Yeah, ça va bien.
Yeah, pour ceux qui te connaissent pas, ancien champion de freestyle motocross,
ouais.
Chris de tournée, t'as eu tout partout, sacrament de tout au, t'as fait le tour du monde quasiment.
C'est promené pas mal, ouais.
Ah ouais.
Ouais ouais, ben oui, on s'est amusé avec ça.
Chris, c'est impressionnant, tabarnak.
Ben, c'était pas vraiment planifié dans le sens que moi, quand j'ai commencé à faire de la moto, hein, c'était pour le fun. Mon grand frère en faisait. Puis évidemment, j'ai eu la piqûre, puis j'ai commencé à en faire. Puis au début, j'étais pas vraiment bon. Fait que tu sais, j'en faisais, puis j'étais en arrière de chez nous, puis c'était vraiment, vraiment genre, on s'amuse. Puis j'avais un autre chum qui en faisait aussi, de mon âge.
C'était-tu du parcours, genre?
On avait de pistes.
Il y avait. C'était. Tout de suite, les jumps.
Ouais, ben non, ben dans le temps, à l'époque, le freestyle motocross...
C'était hardcore, comment
non, c'est ça. Ça existait même pas, t'sais. Moi, j'ai commencé dans le début des années 90, puis dans ce temps-là, le sport du freestyle motocross n'existe pas comme sport, comme ce qu'on veut aux X Games, puis tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de rampe, il n'y avait rien de ça. Tout ce qui existait, c'était une piste avec des sauts, des bosses, puis on tournait en rond, puis on faisait ça, tu sais. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai commencé, en tant que pilote. Bon, là, j'ai grandi, j'ai commencé à faire des courses avec mon frère, comme pilote de motocross, puis éventuellement le freestyle, qui est arrivé début des années 2000, avec les X Games, dans le fond. Fait que là, ça a vraiment explosé partout, puis le sport a commencé en Californie, puis après ça, évidemment ça s'est répandu partout. Puis moi, j'étais vraiment dans l'âge pour ça. J'écoutais tous les DVD de tout ce qui est snowboard, skateboard, motocross. À l'époque, même avant les DVD, c'était des VHS. Puis je trippais vraiment là-dessus, puis ça m'allumait vraiment. Puis fait que je commençais à en faire, mais vraiment pour le fun. Je coursais encore, je faisais des courses, mais au lieu d'essayer d'aller tout le temps de plus en plus vite, puis d'essayer de gagner les courses, je faisais des figures, c'est ça. Puis je faisais des petits concours de saut à l'intermission. Puis tu sais, dans le temps, c'était genre, tu t'essayais de gagner ça pour 100$, puis un hot dog, puis le t-shirt de l'événement. Là, c'était à peu près.
Ah, oh, ouais!
Ça, non, mais tu sais, c'était vraiment le début des débuts, puis c'était vraiment pour le fun. Puis,
ah, c'est cool! Fait que t'as connu tous les débuts de
ouais,
ça,
vraiment,
l'évolution du sport.
L'évolution du sport, du freestyle motocross. Comme les gens le connaissent aujourd'hui, tu sais, on voit ça des fois, on va, je sais pas, dans un restaurant, tu sais, à cage, des fois, ils mettent des vidéos de freestyle motocross, parce que c'est tellement spectaculaire, des fois, tu vois ça. Mathieu Roy, des fois, il en parle à Salut Bonjour aussi. Il met des petits clips des événements Red Bull, des trucs comme ça. Puis on voit les gars ce qu'ils font. Mais c'est tellement incroyable à ce temps. Le sport a vraiment évolué. Fait que c'est super spectaculaire. Fait que tu sois jeune, vieux, que tu sois intéressé ou non par le sport, quand tu vois ça, tu fais comme qu'ils sont malades. Puis c'est assez spécial. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Ça a explosé. Puis fait que j'étais dans ce mouvement-là. Puis à un moment donné, j'ai juste pris la décision de lâcher les courses, puis mon père n'était pas trop vraiment excité à l'idée que j'abandonne les courses pour, tu sais, on avait travaillé, dans le fond, depuis que j'avais 10 ans, qu'on se pratiquait, puis qu'on investissait de l'argent, puis du temps là-dedans, puis tout ça pour faire des courses, puis pour être gagné, puis des championnats, puis des ci, puis des ça, puis là, à un moment donné, rendu à l'âge de 19 ans, à peu près, j'ai comme fait, ben là, je veux... Ben, la réalité, c'est que j'ai pas eu le choix, parce que l'année que j'ai lâché à faire... participer à des courses de motocross puis mettre de l'énergie sur des courses, c'est l'année que j'ai commencé les X Games. Dans le fond, que j'étais, je me suis qualifié finalement pour mes premiers X Games en 2002 à Philadelphie. Fait que ça a comme coordonné ensemble. Puis là, j'avais un chum à l'époque, ben il est encore mon chum, Jean-Luc, je le salue. Puis lui, il était plus vieux que moi, puis il voyait l'espèce de tendance. Puis moi, j'étais jeune, puis je faisais ça pour le fun un peu. Puis on pensait pas vraiment à dans 5 ans, dans 10 ans, puis essayer de planifier un plan pour percer, puis tout ça. Puis lui, il voyait vraiment la vague de sport extrême arriver, puis il voyait comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Puis il dit, ben, il dit, les X Games, il y a des compétitions de qualification qui existent. Puis si tu te qualifies, si tu ramasses assez de points après ces 3 manches-là, qui étaient à l'époque à Nashville, Cleveland, puis il y en avait un autre à Détroit, je pense. Puis il dit, si tu ramasses assez de points dans ces compétitions-là de freestyle, ben tu vas être invité automatiquement aux X Games, ce qui était, je veux dire, exceptionnel, tu sais. Puis les plus gros noms étaient invités, eux autres, à l'époque. Il n'y avait pas besoin de se qualifier, mais les autres, il fallait qu'ils se qualifient. Fait que j'avais une chance, tu sais. Puis j'étais les faire. J'ai fait les 3. Puis tabarouette, j'ai ramassé assez de points pour être qualifié pour les... Il en prenait, je pense, 12 à l'époque, là, pour être qualifié pour participer au... Puis il y a plusieurs... Il y a comme trois catégories. Il y a le freestyle, le big air, puis il y a à l'époque, il y avait le step-up, qui est l'espèce de saut en hauteur par-dessus une perche. Ça, c'est les trois catégories-là qu'il y avait.
Exact,
c'est vraiment un saut en hauteur, mais à moto.
Ouais.
Puis, anyway, fait que je m'étais qualifié pour le freestyle, puis step-up, me semble. Fait que c'est comme ça que ça a commencé en 2002, puis après ça, ben, ça n'a jamais arrêté. Ça a comme déboulé, puis j'en ai fait d'autres, puis...
Ben ouais, parce que c'est sûr, on va revenir à tes débuts, là, ouais. Parce que t'as passé vite à ouais. travers du commencement, mais c'est ça, parce que quand t'as commencé, t'as participé à ta première compétition, tu t'es pété le tibia et ouais. le périnée. Périnée, ouais. je sais même pas c'est quoi le mot, là. Puis ouais. Ça t'a pas démotivé. Hey, merde, ouais. moi, là, je serais tellement démotivé, mon gars. Moi, ouais. je serais « fuck that, ouais. man », Je commence la danse. non, je suis moins dangereux.
non, mais c'était peut-être un peu de naïveté là-dedans, puis j'aimais vraiment ça. Puis pour moi, ça changeait rien, finalement, que je me casse une jambe ou pas. C'était comme, ouais. OK, puis on va être dans le plat d'un mois, puis après ça, on recommence. T'sais. Fait que c'était vraiment ça, mon thinking en arrière de ça. Puis, ben c'est ça, c'était une de mes premières courses, c'était à Dégelé. Super bel endroit pour se blesser. Ouais. Aux portes du Nouveau-Brunswick. Et vraiment, c'est l'hôpital. Puis, ben, à vrai dire, écoute, la vraie histoire avec cet événement-là, qui est une catastrophe, mon frère qui courait aussi à l'époque, mon frère se blesse, puis il se casse, je pense, la clavicule, fait qu'il se ramasse à l'hôpital de Dégelé. Puis c'était ma mère à l'époque qui l'accompagnait. Mon père était là aussi. Fait que mon père reste avec moi. Ma mère s'en va à l'hôpital avec mon frère. Bon. Fait que là, elle revient pour assister à mes courses à moi, qui étaient plus tard dans l'après-midi. Je fais mes affaires. Je me plante. Je me casse la jambe. Là, ma mère m'amène encore à l'hôpital. Et là, elle arrive à l'hôpital. Et puis là, l'infirmière était comme... Elle pensait que ma mère, c'était genre l'organisatrice de la course. Parce qu'elle était comme... Mais là, c'est le deuxième blessé que vous amenez, genre, dans le même après-midi. Êtes-vous l'organisatrice de la course? Elle dit non, je suis la mère des deux, tu sais. Fait que... ouais, fait que ça a toujours resté. Tu vois, on trouve ça bien drôle. Puis,
j'ai une bonne anecdote. Ouais. Moi, dans le temps, j'étais tellement casse-cou. Ben, dans le temps, quand j'avais genre comme 3-4 ans... Ouais. Puis je déboulais tout le temps les marches. Mes parents, ils savaient plus quoi faire. Ils essayaient de... Mais je me pétais tout le temps à gueule que le docteur a pris ma mère à part et a fait « Est-ce que tout va bien à la maison? » Je pensais que mon père, c'était un bâtard.
Elle avait des bleus, mais... Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'ils font ça. Hein. C'est clair qu'ils font ça, mais...
Ouais, fait que mais... c'est ça. Fait que, mais ça, ça t'a pas démoralisé.
Non, pas en tout. Puis... Fait que, écoute, là, mon frère dans le plat, puis. Fait qu'on est revenu de ça, puis après ça, on a recommencé, puis. Mon frère éventuellement a arrêté, là, il a compris. En 96, il a arrêté, puis moi, j'ai continué. Puis,
pourquoi lui, puis pas toi?
Ben, lui, t'as plus rendu un tournant dans sa vie que. Tu sais, rendu à un certain âge, bon, tu fais comme, OK, gars, je l'ai fait, j'ai trippé en masse. Tu sais, je gagnerai pas ma vie en faisant du motocross, vraiment, là. Là, je suis blessé, je travaille, fait que, tu sais, ça vient un peu... c'est un petit peu compliqué, ah ouais, là. Fait que là, tu fais comme... À un moment donné, tu fais comme, oh, OK, regarde, je vais me concentrer sur ces choses sérieuses, puis travailler, puis faire d'autres choses. Puis finalement, il s'est retrouvé à être mécanicien, finalement, pour d'autres pilotes. Finalement, il était super bon mécanique, fait qu'il était mécanicien pour... dont Travis Pastrana, là, quand il était jeune, à l'époque. Puis, c'est ça. Fait que là, mon frère, c'était un mécanicien. Moi, j'ai continué là-dedans.
Mm-hmm.
Puis, après ça, ça n'a jamais arrêté.
Puis toi, c'est ça, t'as gagné... tu sais, l'année d'après, t'as gagné ta première compétition.
Ça se peut. Ça fait tellement longtemps.
Ouais.
Ça fait tellement longtemps, mais je te dirais que c'est sûrement... Ouais, peut-être la deuxième année que je courais, j'ai sûrement gagné une course parce que j'ai gagné le championnat. Puis après ça, ça...
ouais, c'est ça. Puis là, ouais. ça t'a amené comme peu à peu... À passer chez les pros.
Ouais.
Puis là, après ça, tu t'en allais, tu as été invité au Supercross de Montréal.
Ouais, ouais.
Puis là, tu as fini genre deuxième, je pense, rendu là. Puis là, c'est là que tu as commencé à te faire te faire spotter par l'autre. Puis...
Ben, c'est parce que tu sais, le Super Motocross de Montréal, qui avait lieu au Stade Olympique, ça n'a plus lieu maintenant. Mais tu sais, c'était vraiment notre finale de la Coupe Stanley pour tous les amateurs de sport motocross en général, parce qu'il y avait du motocross, mais il y avait aussi du 4 roues, il y avait de l'autocross, il y avait des pick-up, il y avait plein d'affaires. Fait que c'était vraiment un gros happening finalement de sport motorisé, puis de tripeux, puis tout ça. Puis, ben, il y avait beaucoup d'Américains qui venaient, beaucoup de pilotes de l'Ontario, tout ça. Fait que c'est sûr que s'il y avait un Québécois qui se démarquait, ben, c'est sûr que
tu te faisais
remarquer. Puis, ouais. Il y avait quand même 50 000 personnes dans le temps là, qui allaient voir ça. Fait que c'était même un super gros événement. Puis, fait que là, je m'étais fait inviter. La première année que j'ai fait cet événement-là, j'étais même pas vraiment inscrit dans la compétition, j'étais trop jeune. Mais ils sont venus me chercher finalement pour participer au concours de saut.
Puis, t'avais quel âge?
Je devais avoir 17 ans. Ouais, puis ils sont venus me chercher, puis j'ai fait le concours de saut la première année. Puis je pense que j'avais fini deuxième. Puis ben, ça fait tellement longtemps. Mais tout ça pour dire que ça a été.
Ouais,
ça
c'était le commencement aussi ouais, des ben, sauts. Là.
C'est ça, exactement. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'est que, tu sais, dans la piste, il y avait plusieurs gros sauts quand même. Puis là, ben, on se servait de tous ces gros sauts-là, finalement, pour faire une figure différente. Puis on faisait, je pense, c'était deux tours de piste qu'on avait le droit à faire. Puis on faisait un peu ce qu'on voulait finalement, tu sais. Fait que là, c'est gros, on faisait des figures puis tout ça. Puis à la fin de la compétition, c'était le public qui décidait par les applaudissements qui c'est qui gagnait, tu sais. Fait que là, celui qui avait donné un meilleur show,
ouais.
Ben le monde criait pour lui, puis cheerait, puis ce gars-là gagnait.
Tu es-tu de ton premier saut que t'as fait? Ça devait être quand même épeurant, hein?
Ouais, mais je me souviens surtout de, tu sais, si tu parles de, parce que ça a été quand même progressif, là, tu sais, tu parles de premier saut, tu sais, j'ai commencé peut-être à faire des jumps, je sais pas, 5-10 pieds, puis après ça, éventuellement tomber sur une rampe, puis faire un saut de, je sais pas, 70 pieds de long sur une rampe faite pour du freestyle.
Ouais.
Mais ce saut-là, je m'en rappelle même pas, mais tu sais, si tu me demandes un saut le premier saut que je me rappelle, vraiment, c'est quand j'ai fait mon premier backflip, tu sais, quand ce premier backflip là que j'ai atterri, que j'ai réussi, mettons, là, ça, tu t'en rappelles, parce que c'est complètement fou. Premièrement, quand tu t'en vas pour faire ça, t'es comme, je peux pas croire que je vais... Tu sais, c'est de l'inconnu.
Ouais.
Puis, bon, tu sais que c'est faisable, mais il y a bien de l'inconnu. Tu sais qu'il n'y a pas de demi-mesure, tu peux pas y aller à la moitié. Tu peux pas faire, je vais en faire une demi juste pour voir. T'atterris en tête, ça marche pas. Fait que fou, tu y as. Il faut vraiment que tu te commettes. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est côté stress, là, niveau de stress, là, c'est... J'ai jamais vécu ça, cette espèce de roche-là. Comme...
Aussi intense.
Là. Aussi intense, parce que tu sais, tu te dis, clairement, il y a des conséquences si ça marche pas. Puis à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Tu te dis, OK, regarde. OK, les conséquences, ça va être soit que, bon, j'atterris un peu trop court, ça roule en avant, je passe par-dessus les poignées. OK, mais là, mon atterrissage est quand même assez mou, fait que je devrais être correct. Peut-être une clavicule qui va casser, mais au pire. Sinon, si je tourne trop, je vais atterrir sur les fesses, bon, c'est pas si pire, sur le dos, bon. Puis, fait que là, tu fais comme... OK, je pense que j'accepte les conséquences, puis là, dans ta tête, tu dis, OK, ben regarde, j'accepte, puis je vais, puis je le fais, puis... Il arrivera ce qui arrivera, puis tu y
est-ce
vas.
Que, est-ce que tu te pratiques sur une trampoline avant? J'imagine que
non,
tu dois faire des...
Non, maintenant, il y a plus d'outils qui existent pour les jeunes qui veulent faire ça. Mais tu sais, dans le temps, nous autres, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment à la dure, là. C'était comme...
ouais, puis c'est le début.
C'était le début. C'était à la Evil Knievel. Il y avait bien de l'improvisation. C'était comme, OK, on va le figurer. On n'avait aucune idée qu'est-ce que je faisais. Tu sais, la rampe, même affaire. C'était quoi la bonne angle à avoir pour la rampe, puis les transitions, puis
ben ouais,
c'est vraiment important. Là,
ben oui.
Fait qu'on avait aucune idée. Fait que tu sais, j'avais une chambre qui avait fait ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens.
Avec
des binders, okay. Puis pour prailler l'espèce de.
Des portes trouées d'un poubelle.
Ouais, fait que des plywood. Puis, fait que là, au début, c'est ça. Ce que j'avais fait, moi, pour amortir l'impact, si je plantais, c'était de mettre l'espèce de rip pressé qu'ils prennent finalement pour mettre. Qui servent comme litière finalement pour mettre dans pour les. Pour les vaches, dans les fermes, des trucs comme ça, puis après ça, ils nettoient ça, puis ils enlèvent ça, mais c'est vraiment du copeau de bois, finalement. Moi, j'avais un gars proche chez nous qui vendait ça, tu sais, c'était des trucks, des vannes de copeaux de bois, puis il vendait ça aux fermiers, puis tout ça. Je disais, hey, je vais t'en prendre un, puis on va le mettre sur mon atterrissage, tu sais. Fait comme ouais. Ça, si je plante, ben j'avais un 4 pieds, peut-être, de copeaux de bois qui absorbait le coup. Fait que c'était soit ça, ou l'autre option, dans le temps, c'était que tu sautes dans l'eau. Tu atterrisses dans un lac.
Ah!
Ouais.
Ah, ben ouais, en pratiquant. Ouais. Genre avec un bicycle ou avec.
Non, avec un motocross. Oh, ouais.
Puis. Il n'est pas fini ton motocross après.
Ouais, mais c'est ça, c'est pas bon. On s'entend, c'est pas bon. Il peut marcher encore, tu le vides, bon, tu vides l'eau, tu repars, tu recommences. Mais c'est pas très, très bon, là.
J'espère pas bon pour l'environnement.
Non, sur le dessus, on n'en parle pas, là. C'est encore moins, là. J'espère que Ferrandez écoute pas.
Gabriel Nadeau-Dubois va être après toi dans pas long.
Non, je me ferais pas recruter par réseau, je pense. Hein. Mais, ouais. Fait que là, il y avait le lac, puis là...
Le lac semble être une bonne option, pareil.
Là, oui, puis non, c'est que t'atterris sa face dans un lac, ça fesse quand même pas mal.
Ah, ouais.
Après ça, bon, t'as le Bessic.
Ah, qui peut te tomber dessus.
Qui est magané. Puis ouais. L'autre affaire, c'est que, dans le fond, moi, je pratiquais ça à la fin de ma saison, quand mes shows et mes compés étaient finis.
De parcours?
Ouais, c'est ça. Okay. Là, je pratiquais les flips parce que je me disais, ah, si il m'arrive, si j'ai une blessure, peu importe, ouais. La saison est finie anyway.
J'ai tout l'été pour récupérer.
C'est ça. C'était plus en septembre, mettons.
Ah, oh, est-ce qu'il... Oui, oui.
C'est ça, à la fin de la saison. Mais tu sais, en septembre,
plus
là...
Plus de sens.
C'est ça, mais à septembre, l'eau commence à être fraîche. Fait que ça, c'est une autre affaire. Tu dis, Chris, l'eau, elle est gelée. C'est de la merde. Tu sais, c'est pas... La meilleure option, c'était vraiment le brindis, tu sais. Fait que, anyway, là, à Star, il y a des bacs de mousse qui existent, des cubes de mousse, pis ça, comme
ouais.
On voit avec les acrobates, pis tout ça. Là. Pis là, après ça, ça a été les gros coussins gonflables, pis etc. Mais dans le temps, ça n'existait pas, ça. Fait que c'était encore plus dangereux, plus risqué, plus stressant. T'sais, à Star, tu peux l'essayer en sachant qu'il va avoir presque pas de conséquences ou très très peu parce que tu t'atterris dans des blocs de mousse. Fait que tu fais comme ouais. Tu sors le bac et t'es correct. Là,
mais la première fois que tu l'atterris,
ouais.
Tu devais être heureux en
oh, ouais, c'est incroyable. Ben oui, tu dis, je peux pas croire que j'ai fait ça. Comme, ça, a ouais. Ça a marché. Ça a marché. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai réussi à faire 360 dans les heures et atterrir ces deux roues. C'est quand même, voyons donc. Puis après ça, c'est de dire, bon, OK, là, faut que je recommence.
Ouais. Puis devant du monde.
Ouais. Ouais, c'est ça, ça, c'est notre père de manche.
Ouais.
Parce que là, il y a la pression. Puis, tu sais, le faire dans le cours on arrive chez vous, c'est une chose. Mais le faire quand il faut que tu le fasses, avec une autre rampe, d'autres conditions, un autre atterrissage, ouais. une autre rampe, un autre. Fait que là, ça ajoute encore au niveau de
c'est
stress.
C'est quand tu as commencé à les lander, ces trucs-là. Ouais. Là, ouais. T'étais-tu rendu au motocross de Montréal, au Super Motocross?
Ouais. Ouais.
OK.
Ouais, fait que c'était vraiment
fait que là, tu commençais ces compétitions-là.
Ouais. C'était vraiment pour monter le niveau, là, parce que ça commençait dans le temps. Les backflips arrivaient dans le sport du motocross, puis on voyait que c'était possible. Fait que là, tu sais, si tu voulais être dans le game, t'avais pas le choix finalement de suivre la parade, puis faire gagner. Il faut que je fasse un flip.
Ben, c'est ça.
Si j'espère gagner, puis faire des compés, puis te faire inviter, puis ça, faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Quelqu'un l'a fait. Ben, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas suivi, puis leur carrière s'est arrêtée pas mal là, tu sais. Mais fait que j'ai décidé de faire ça. Puis,
est-ce que c'est plus dur un front ou un back?
Un front flip, je l'ai jamais essayé, mais c'est.
Ça a l'air d'être compliqué.
Ouais, mais il y a comme deux, trois façons de le faire. C'est que souvent, ce que les gars font, c'est qu'ils ont une espèce de petit balancier à la fin de la rampe qui fait en sorte que quand la moto arrive au bout, ça fait kicker la roue d'en arrière. C'est ça qui donne l'espèce de propulsion pour faire la rotation vers l'avant, puis le poids, puis tout ça.
Ça l'aide.
Ça l'aide, ouais. Puis après ça, la cheater ramp, souvent aux États-Unis, parce qu'il ne veut pas... C'est un mécanisme qui t'aide à faire la figure, mais c'est quand même mon gars. Là,
ben, tu sais, personne le fait quand même.
Ça doit être vraiment fucké, ça doit être vraiment fucké. Puis, c'est ça. Mais il y en a peut-être deux ou trois dans le monde qui ont vraiment fait des front flips sans aide, sans mécanisme, sans rien. Puis ça, c'est complètement mon gars. Je peux même pas croire.
Ah ouais?
Ouais. C'est parce que, tu sais. Il y a le BMX, ces figures-là arrivent toutes du monde du BMX. Puis en BMX, tu fais comme, OK, bon, je l'essaye, puis tu tombes de 10-15 pieds, les landings glissent. C'est quand c'est pas les mêmes conséquences, c'est pas les mêmes affaires. Mm-hmm. Mais là, tu fais ça en motocross à 45 pieds dans les airs, là, avec un bac de 250 livres sur toi. Pis,
c'est quand même dur à manœuvrer.
Ouais,
aussi,
ouais, ben oui, c'est ça, ça a un poids, c'est pas pareil.
Exactement.
C'est pas pareil. Fait que tout ça pour dire que ça fait juste ajouter une couche de plus, tu sais, de tout, tu sais. Ouais.
Puis toi, t'as fait carrière là-dedans.
Ouais. J'ai pas choisi le chemin le plus simple, on va te dire, là. Puis mon gars, j'espère qu'il fera pas ça. Parce que, ouais.
Fait que c'est ça, fait que en participant au Super Motocross de Montréal, tu t'es fait te remarquer pour aller à Athènes.
Ouais.
Aller participer à un
une compétition
au Super Motocross de Athènes en
Grèce.
Puis c'est là que tu as commencé à faire comme hey, là, moi je veux faire ça de ma vie.
Ouais.
Je vais consacrer tout mon temps là-dedans.
Ben, Athènes, dans le fond, c'était ma première compétition internationale que je faisais. Puis j'ai été chanceux de la faire parce que C'était supposé être Jean-Sébastien Roy qui fait cette compétition-là. Puis Jean-Sébastien Roy, c'est le meilleur pilote au Canada dans l'histoire du motocross, là, pour le ski des courses, pas le freestyle, mais les courses. Puis c'était lui qui était supposé de faire cette compétition-là à Athènes. Puis à Athènes, c'était une course en stade, comme au Super Motocross de Montréal. Mais il y avait aussi la portion du concours de saut à l'intermission, tu sais. Fait que là, l'agent que je connaissais dans le temps, puis qui s'occupait de booker Jean-Sébastien là-bas, il dit « Ben, Jean-Sébastien, il s'est disloqué une épaule, bon, ça prend un remplaçant, le bike, c'est un Honda, toi, tu roules déjà des Honda, ça te tente-tu de le faire? » Fait que je fais « Yes ». Puis il me demande, il dit, c'était genre au mois de novembre, tu sais, je faisais plus de bicycle, la saison était finie pour moi, puis tout ça, puis j'étais vraiment pas dans le bide pour faire des jumps, puis tout ça, mais il me dit, t'as-tu fait du bike derrière moi? J'étais comme, oui. Il dit, t'es-tu prêt pour faire une course, tu penses, dans genre 2-3 semaines? Oh, oui! Même je savais très bien, j'étais pas en forme pour 5 cents, tu sais, puis j'étais pas prêt pour tout, mais je fais pas passer à côté de ça. J'étais comme, oh, oui, je vais être là, je vais être prêt, tu sais. Le lendemain, je faisais du cardio, tu sais, puis ouais. J'essayais de. Mais.
C'est quoi la préparation à faire pour être prêt pour ça, tu sais, parce que ouais. Moi, c'est tellement pas mon univers, ouais. Là, fait que dans ma tête, ben, t'es en bas de la moto, poignets.
Mais si tu fais des courses, c'est vraiment, vraiment dur physiquement, c'est vraiment, je pense qu'il avait fait des tests dans le temps, puis ça a été prouvé que c'était le deuxième sport le plus dur physiquement du côté du cardiovasculaire, puis tout ça, sur la planète, après le soccer. Tu sais, le soccer, il court pendant 2 heures de temps, tu sais, ça arrête pas vraiment. Puis le motocross, c'est des courses professionnelles, c'est des courses de 30 minutes de durée. Puis, tu sais, c'est des terrains qui sont vraiment accidentés, qui sont vraiment maganés. Puis, tu es tout en train de te battre contre la moto, puis tu travailles tout le corps en même temps. Tu travailles les jambes parce qu'il faut que tu te lèves, il faut que tu te rassoies, tu te lèves, tu te rassoies. Mais ça, c'est à chaque, je sais pas, 200 pieds. Là, tu te lèves, tu te rassoies, tu te lèves. Chaque tournage, chaque virage, tu t'assoies. Après ça, tu te relèves. Fait que ça, c'est comme, imagine de faire des squats pendant une demi-heure. C'est un peu ça, tu sais. Puis après ça, les bras, ben, faut que tu contrôles les poignets, gaz, la clutch, le break avec tes doigts. Fait que là, en plus de devoir tenir les poignets, tu sais, quand même assez fort, faut que tu gardes un doigt sur la clutch puis un doigt sur le break. Ce qui fait en sorte que ça travaille vraiment, vraiment gros les avant-bras. Tu sais, à un moment donné, tu viens les bras vraiment crampés, là, parce que t'es tout le temps en train de... les doigts comme ça, puis... Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment dur physiquement.
Ben ouais. C'est super intéressant à voir ça, parce que, tu sais, moi, j'aurais sûrement fait partie du monde à faire... Ben là, t'es sur une machine!
Si t'as la poignée,
puis... Puis là, je t'écoute parler, je ferais absolument pas ça! Moi, sur une moto, j'ai l'air d'un touriste, c'est comme...
Chacun son métier, mais...
ouais, c'est ça. Moi, je suis bien dans mon semi-sous-sol.
ça pour dire que les courses, c'est très dur physiquement. Le freestyle, c'est d'autres choses. Fait que là, moi, je m'en allais plus vers le freestyle. Fait que là, c'est plus relax. Évidemment, c'est moins dur physiquement, mais...
Mais à Athènes, c'était une course, finalement?
À Athènes, je faisais les deux. C'était en 2001. Ah, OK. Ouais, c'était en 2001. J'avais pas encore fait le switch vers le freestyle à 100%.
T'avais quel âge, là?
Je devais avoir...
T'es jeune?
Ouais, j'avais 19 ans, peut-être, 18 ans.
OK.
18 ans.
OK, fait que t'avais ta vie d'adulte.
Je faisais encore les deux sports, ben les deux disciplines, course puis freestyle motocross. Puis là-bas, ça tombait bien. C'était une course avec un concours de saut. C'est pour ça que j'ai... Mais je me rappelle, j'étais vraiment pas en forme, tu sais. Puis quand tu essayes de tenir sa moto trop longtemps, puis tu pousses un peu trop, ça, à un moment donné, tu le sens que t'es fatigué, là, t'as de la misère. Mm-hmm. Puis ce qui arrive, c'est que tu commences à faire des erreurs. Tu tournes un peu trop loin, un petit peu trop large sur la piste, hein, tu débordes à gauche puis à droite. Puis j'étais dans une course, puis j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment pas en forme. Comme je te dis, c'était au mois de novembre, j'étais pas prêt pour tout. Puis j'étais tellement fatigué que j'ai échappé à la moto sur un saut, puis la moto s'est envolée, puis elle a été fessée, une espèce de clôture pour les estrades, finalement, qui était comme 8 pieds plus haut que la piste, là. Il y avait le début des estrades, t'sais. Hey, la bike, la claire dans un poteau de clôture, le bike tombe à terre, le bike t'a magané, là. Puis c'était un CR250 2001 flambant neuf qui m'a prêté, en plus, dans le temps. Puis la pipe était smashée à grandeur, les poignets, les gars me regardaient, j'étais comme... Mais c'est qui, ce clown? Ils me connaissaient pas, là.
Ben ouais, c'est ça.
Donc, les autres, là, c'est... Imagine, là, c'est Honda Grace, là, t'sais, eux autres, c'est Honda Grace, puis là, ils viennent fournir un bike à un Canadien qui n'a aucune idée c'est qui, tu sais.
Qui vient de smasher.
Moi, je viens de scraper le bike bien raide. Puis t'as deux soirs, cet événement-là. Mais je me suis surpris, j'ai gagné le concours de saut. Fait que là, ça a comme un peu...
Ouais. T'as fait un peu plus ton nom.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais... ben ouais, ça avait été bien.
Comment tu l'as gagné? C'est quoi t'avais fait comme...
Ben dans le fait, tu sais, en 2001, c'était assez de base. Les figures, il n'y avait pas de gros backflip d'affaires comme on connaît aujourd'hui. Fait que c'était une coupe de figures. Je pouvais passer mes jambes au-dessus des poignets dans les airs, tu sais. Puis je faisais okay. des whips. Je mettais la moto de côté. Puis là, on crinquait le monde un peu. Puis
c'est quoi celle où tu... T'es comme, genre, c'est kiss
of death.
Kiss of death.
Kiss of death.
Oui. C'est quand t'as les jambes ouais, ça, dans les airs, ouais, puis tu tiens ouais, la moto.
Ouais. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le kiss of death, tapez ça sur Google, là, kiss of death, puis tapez freestyle motocross, puis vous allez voir c'est quoi. Puis ouais, ça, c'est une figure que je faisais, que j'aimais vraiment ça faire, puis qui était super spectaculaire aussi. Fait que tu pitches ta moto, finalement, à la verticale en avant de toi, comme en chandelle. Mm-hmm. Puis ton corps, après ça, vient au-dessus de la moto comme celui-ci.
Tu fais comme Superman.
Mais vraiment à verticale. Fait qu'au lieu d'être à l'horizontale, t'es vraiment, boum, comme ça dans les airs. Fait que la moto est droite, puis toi, t'es droit par-dessus la moto, puis t'es supposé de regarder vers l'arrière en plus. Fait que c'est vraiment...
Ah, comme si tu faisais la chandelle.
Ouais, c'est ça, exact. Comme je faisais un plongeon, finalement.
Ouais, c'est ça.
Mais je tiens la moto en même temps. C'est un peu dur à expliquer, mais...
Ouais.
Mais allez voir ça sur Google.
Puis, hein. Tu sais, le motocross, t'as craint de même, mais...
Ouais.
C'est quoi, tu donnes-tu du... Quand tu te pitches, tu tiens juste la poignée, fait... Quand t'en reviens, tu donnes-tu du gaz ou...
Quand j'atterris, je donne un peu de gaz. Ouais, okay. Fait que c'est une espèce de... Il appelle ça le throttle control. Puis là, les gens, là, ils vont nous perdre mes rats. J'embarque là-dedans. Là. Tu sais, t'arrives, tu te donnes du gaz. Faut pas t'en donner trop. Faut t'en donner assez. Faut pas que tu donnes un coup de gaz. Faut que tu aies un gaz constant du début à la fin. Puis la moto est supposée. Si la moto, dans les airs, est à l'horizontale, ça veut dire que t'as fait un beau saut. Puis t'as donné un bon throttle control. Puis t'as fait un bon saut. T'as une bonne position sur la moto. Position du corps qui est importante aussi. Puis après ça, quand tu t'en vas atterrir, là, tu donnes un petit coup de gaz, donner un peu de momentum au bike, puis t'atterris. Hein?
Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant de ce type, mon gars.
Ouais.
Fait que, puis là, après ça, après Grèce, c'est quoi qui est arrivé? C'est là que...
Ouais, après Grèce...
C'est là que t'as commencé à te promener pas mal partout dans le monde. Là.
Ouais, dans le fond, c'est ça, Grèce, c'était ma première compé 2001, puis là, après ça, 2002, ça a été une grosse année pour moi. Ça a pas mal débloqué avec les X Games. Fait que, dans le fond, l'été d'après, j'ai participé aux X Games au mois d'août.
Puis t'as été le premier Canadien à participer
en motocross, j'ai été le premier Canadien en motocross à participer. Puis,
ça représente quoi, ça, pour...
Ben, c'est cool, tu sais, c'est un signe que j'étais dans le début de cette espèce de d'air-là, là, tu sais, de sport extrême, finalement. Ouais. Tout ce qui est skateboard, BMX, puis il y en a plein de bons Québécois qui ont performé à l'international, pas juste en motocross, mais dans ces sports-là. Là. Rollerblade, dans le temps, qu'il y avait aussi, pas à Montréal, mais aux X Games. Puis il y a plein de bons Québécois qui ont performé sur la scène internationale. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est cool d'avoir été là au début, puis d'avoir aussi connu ces gars-là, qui sont dans d'autres sports, là, tu sais, sport extrême, avoir connu ces gars-là aussi.
Non, t'as justement fait un podcast avec Pierre-Luc Gagnon.
Oui, oui.
Ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, t'as un podcast, justement, là, tu sais. Puis, ben, c'est ça, tu sais, parlant des X-Games, lui, tabarnak, a fait son nom aussi là-dedans.
Ben, lui, Pierre-Luc a passé la carte. Pierre-Luc, lui, il a vraiment compris la game. Ouais. Puis, lui, tu sais, il a déménagé. La grosse différence, dans le fond, mettons mon parcours à moi, puis à Pierre-Luc, c'est que Pierre-Luc, lui, déjà, dans un relativement bas âge, a déménagé en Californie, tu sais. Fait que, veux pas, quand tu déménages là-bas, puis que tous les meilleurs pilotes au monde sont là-bas, les meilleurs athlètes de ton sport sont là, mais c'est sûr que ça t'aide. Mm-hmm. C'est sûr que tu te fais découvrir, puis c'est sûr que les commanditaires, tout est plus facile, puis tu t'en fais à l'année aussi. Mm-hmm. Puis il y a des installations qui sont là pour ça. T'sais. Ici à Montréal, des installations, un Mega Ramp puis un Vert en skate, il n'y en avait pas vraiment. Là, fait qu'il n'y avait pas le choix s'il voulait évoluer là-dedans d'aller là-bas. T'sais.
D'aller être les meilleurs.
C'est ça. Puis en freestyle, motocross, c'était la même affaire. Le sport arrivait de là-bas. Fait que c'est sûr que. Eux autres, ils avaient déjà 3-4 longueurs d'avance sur nous autres au Canada. Là, parce que c'est les figures qu'on apprenait. Les autres, ça faisait déjà 3 ans qu'ils faisaient.
Toi, t'étais pas prêt à faire ce sacrifice-là?
Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, c'est chaque chaque jeune a son parcours là-dedans. J'étais comme confortable un coup au Québec. Je faisais plein de compétitions. Je faisais un petit peu d'argent. Ça allait bien. J'avais des commanditaires. Puis là, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire des DVD de Freestyle Motocross en 2006. Je me disais, hey, c'est à l'ère des films de sport d'action. Tu sais. Mm-hmm. Je me disais, hey, ça serait cool faire un projet. Puis on va filmer dans plein de places. Puis on fait un DVD de motocross. Fait que je me suis...
Avec Invasion.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'avais un chum qui faisait déjà ça dans la vie. Fait que je disais, hey, on fait ça. Puis là, il me dit, oh non, on le fait, mais là, on va en Californie avec les meilleurs. Puis ça, OK, parfait. Fait que là, on se ramasse en Californie. Puis c'était supposé être un voyage qui durait genre un mois au début pour aller filmer là-bas. Puis finalement, j'ai resté là tout un hiver. Puis lui, il est redescendu en avion. T'as monté là en troc, avec le panel, les bikes, toutes nos affaires, les caméras, tout ça. Puis c'est là que j'ai rencontré Pierre-Luc Gagnon, tu sais. Puis après ça, Félix, lui, mon chum qui filmait, il avait des enfants, tu sais, il fallait qu'il redescende. Moi, je regarde alentour, j'étais comme, moi, je suis bien, ça. Ouais. j'ai resté chez Pierre-Luc pendant genre un hiver de temps, puis sur mon petit matelas gonflable dans sa trophy room chez eux, puis je faisais du bike quasiment tous les jours, tu sais, avec des gros noms, puis tout ça, fait que ça va... Mais tu sais, il était déjà rendu... C'était pas qu'il était tard, mais... Tu sais, c'était déjà tard un petit peu, finalement. Mais c'est ça, exact. Fait que... Ouais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je l'ai fait, une espèce de trip de vraiment d'en faire à l'année, puis tout ça.
Ouais.
Puis je l'ai fait pendant une couple d'années, puis plusieurs années quand même, mais... Non, mais lui, Pierre-Luc, il l'a vraiment, vraiment... Tu sais, en habitant là-bas, ça, il avait sa maison, puis...
Mais toi, t'as pas voulu le faire plus jeune, ça? Ou...
Ben, je sais pas. On dirait que... Tu sais, moi, mes parents m'ont toujours vraiment aidé là-dedans, dans le sport. Mais ils m'ont jamais vraiment... Pas poussé, mais... Tu sais, veux pas, ça prend des parents crinqués aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je me mets à la place de mon père. Mon gars fait du bike, mettons... Il fait du bike, mais là, tu sais, de passer, de dire, OK, tu vas faire du bike, tu t'amuses, bon, ça va bien. De ça à, tu t'en vas vivre en Californie, tu lâches tout, tu t'en vas vivre ça. Là-bas, l'école, le ci, le ça. Tu sais, faut-tu être quand même craqué, puis vraiment décider, puis tout ça, puis tu sais.
Comme je te dis ça. Tu commences ça très jeune, ado, pour être.
Moi, j'ai commencé à 10 ans.
Ouais.
Moi, j'ai commencé à 10 ans, mais à cette heure, les jeunes commencent à 4 ans.
Mm-hmm.
À cette heure, dans le temps, 10 ans, c'était jeune pour commencer un sport comme la moto, par exemple. Là,
mm-hmm. Non, mais je veux dire, genre, tu sais, à 19 ans, t'sais, toi, t'aurais pas pu déménager là-bas ou
j'aurais pu.
Le sport était peut-être pas assez évolué.
J'aurais pu, mais c'est ça, tout était tellement. Tu sais, veux pas, mettons, si on compare avec le skateboard. Le skateboard, premièrement, c'est une industrie qui est bien plus grosse que le freestyle motocross. C'est une énorme industrie, bien plus...
Avec Tony Hawk, ben non, mais c'est ça, les games...
Bien plus d'argent, bien plus de compétition, plus de possibilités, plus d'opportunités. Ouais. Freestyle motocross, c'était... Hey, on est vraiment une gang de bums un peu qui fait plus vraiment de courses de motocross, qui fait des sauts. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'association. Tu sais, c'était vraiment le Wild Wild West, puis il fallait que tu te débrouilles par toi-même. Fait que...
Puis il y a eu Travis Pastrana avec Nitro Cyrus.
Ouais, Nitro Circus qui a fait des films lui aussi.
C'est ça. Qui a sûrement popularisé encore plus.
Ouais, vraiment. Vraiment. Ça a été un super gros nom. Fait que lui aussi, il a vraiment rendu ça plus mainstream. Il y a eu des shows de télé. Puis avec. Il y a une association avec Jackass pour les ses shows de télé MTV. Puis tout ça. Fait que ça a fait exploser son brand. Puis tout ça. Puis son.
Toi, t'es as-tu rencontré Jackass?
Jackass, non, je ne les ai pas rencontrés. Non.
Mais Travis, par exemple.
Ouais, Travis, j'étais chez
lui. Il a même participé à ton DVD.
Ouais, exact. Puis ça, c'est très drôle parce que ça, c'est le troisième film qu'on a fait. Puis. On était encore en Californie, puis là, on avait des gens, un plan, si tu veux, qu'on voulait faire, puis tel pilote, on voulait filmer, puis ça. Mais il y a tout le temps bien de l'improvisation, pareil, tu sais. T'es quand même à merci d'eux autres, parce que, tu sais, t'es comme, hey, tu leur obligeras pas de venir tourner pour toi, là, un petit cul du Québec, là, comme, hey, j'ai besoin de toi, ils vont faire comme, t'es qui, toi, tu sais. Fait faut que tu y ailles filmer quand eux autres ride, tu sais, c'est ça la patente. Puis là, ça donnait que... Cette fin de semaine-là, Travis Pastrana, avec toute sa gang, filmait pour son film à lui. Fait que là, on a comme fait, puis genre, on est en train de ça entre les branches, là, on a fait, hey, on peut-tu y aller, tu sais, puis Travis, je le connaissais, fait que, ouais, viens-t'en. Fait que là, on se ramasse là, puis on dit, hey, nous autres, on filme pour un film, on peut-tu filmer des images? Oh, ouais, y a pas de trouble. Fait qu'on s'est ramassé finalement à tourner les mêmes images avec les mêmes pilotes que son film à lui. Tu sais, puis ça a été un tournage de fou, là. Je veux dire, il y avait du gros, gros talent. Ben, le setup, premièrement, le setup est mongol parce que toute la track, si tu veux, le parcours est en flanc de montagne. Mais là, imagine, c'était en Californie, les montagnes partout, les jumps. Tu sais, c'est une espèce de ranch, là, complètement malade, là. Tu sais, tout est big là-bas.
Tout est fois 15.
Tout est fois 1000. T'sais, là, tout est à Yamashiche chez vous. T'sais, t'as un saut. T'sais, moi, j'avais un saut pratiqué, tu comprends? Ouais. Dans un champ. Là, là t'arrives là-bas, c'est Disneyland. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, ils sont tous millionnaires. Puis ils ont tous des astis gros setups, des affaires de complètement malades que moi, je voyais dans des films avant.
Ouais.
Là, c'est moi qui se ramassais dans des tournages de même. J'étais comme, ben, anyway. Fait, tout ça pour dire que.
C'est super cool, man.
Mais tout ça pour dire qu'on a filmé la même journée qui tournait, puis ça a fait des images écœurantes, sans compter qu'on avait aussi Travis Pastrana, qui était le plus gros nom dans le monde du motocross, dans notre film aussi. Fait que ça, il était bien cool. Mais il a toujours été bien cool avec ça, ça ne dérangeait pas, puis vu que je le connaissais, ça l'aidait. Mais tu sais, il était pas genre, hey, ouais, mais là, je veux une petite cote, parce que là, tu utilises mon nom, puis il n'y avait rien de ça. Comme, il s'en sacrait bien raide, là, tu lui. Il était bien au-dessus de ça, fait que. Ouais, fait que ça a été bien, bien cool. Puis ça a été l'espèce de trip en Californie qu'on a fait pendant une couple. Fait que ce trip en Californie, je l'ai fait pendant 3 ans finalement. Fait que l'hiver, j'étais là-bas. Mais l'été, je revenais au Québec. Parce que, tu sais, veux pas, j'avais quand même des commanditaires au Québec. Je participais à une tournée aussi canadienne avec Suzuki dans le temps, puis Coors Light. Puis on faisait des beaux événements quand même partout. Puis on n'avait pas de cassage de tête dans le sens que. Moi, j'avais 10 ou 15 événements à faire pour cette tournée-là, qui était la tournée, ça s'appelait Trauma Tour dans le temps, la série Trauma, je sais pas si tu t'en rappelles, en 2006-2007. Fait que dans ce temps-là, Coors Light mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans des activités comme ça, des parties, il avait fait un concept de tournoi de golf. Fait que tu courais la chance de gagner un tournoi de golf à Toronto. Puis ta caddie, c'était une pitoune, finalement, de, tu sais, le magazine Maxim. Hein?
Ouais.
C'est des filles un peu GQ, un peu la même affaire. Fait que c'était, t'avais une pitoune qui était ton caddie, puis tu jouais du golf la journée, puis nous autres, on faisait une petite démonstration pour eux autres, puis à la fin de la journée, ça finissait en party, tu sais.
Ouais.
Fait que c'était tout à des concepts de fou comme ça que Coors Light faisait. Fait que nous autres, on faisait toute cette tournée-là. Puis c'était vraiment cool. Puis à la fin de la saison, on avait le Super Motocross de Montréal au stade. Fait que moi, j'avais mon été était bien booké ici, ça allait super bien. Puis là, c'est là, moi, à l'automne, là, j'allais en Californie, puis là, j'allais en faire là-bas tout l'hiver.
Tout à l'heure, c'est ça, on parlait de le X-Game, tout ça.
Ouais.
T'as participé à ça, t'as participé aussi à l'autre Red Bull X-Fighter. Ouais. Puis, c'est ça, t'as gagné aussi un championnat du monde là-dedans?
Ouais, mais dans le fond, ça, c'est les années... le championnat du monde, c'est 2003. Puis, ça se passait en Europe. Puis, c'était des compétitions qui étaient soit en Autriche, en Allemagne, en Espagne, puis tout ça. Puis, je suivais ce championnat-là, puis... Il y avait une compétition dans le temps de step-up, comme juste c'est qui le saut en hauteur avec la perche. Puis j'étais pas pire là-dedans. Puis j'ai gagné une manche finalement. À vrai dire, j'étais arrivé égal avec un Suisse, Matt Robot, qui est encore un mes chums aujourd'hui. Puis la joke là-dedans, c'est qu'on était rendu à genre 31 pieds, je pense, de hauteur. Au-dessus de la bosse de terre. Fait qu'on tape peut-être à 45 pieds dans les heures, tu sais. Puis on était rendu au maximum que la barre pouvait monter. Les autres, ils n'avaient pas prévu qu'ils pouvaient monter la barre plus haute que ça. Puis on a fini égal.
Ah, ouais. Les deux, vous l'avez dépassé. Fait que tu savais pas lequel.
Exactement. Puis c'est drôle parce que le prix pour le premier, c'était dans le temps Sony commandité ce championnat-là. Fait que il y avait un trophée. Puis il y avait Sony qui donnait des petites caméras. Photo. Mais tu sais, on remonte à 2003. Imagine une caméra digitale 2003 Sony. C'était une petite affaire. Puis en tout cas, c'était aujourd'hui, on rit de ça. Là. Dans le temps, c'était comme waouh! Wow! Fait que là, moi et Matt, on se regarde. Il y avait un trophée, puis une caméra Sony. Puis là, Matt, il dit, ah, je vais prendre le trophée. Moi, je suis comme, ok, parfait, je vais prendre la caméra. Je suis dans le temps, j'étais comme, je pensais que c'était un bon deal que je venais de faire. Hey, moi, j'ai la caméra Sony, digital avec l'écran en arrière. J'ai dit, hey, yes, tu sais, c'est écœurant, je vais pouvoir prendre des photos sur un écran, puis les downloader après dans mon ordinateur, tu sais. J'étais comme, moi, je pensais que j'avais fait le meilleur deal au monde. Puis là, aujourd'hui, j'étais comme, j'aimerais mieux avoir le trophée aujourd'hui que avec la caméra, finalement.
Mais ça venait-tu avec des chèques, ça, ces affaires-là? Ouais, ou ouais, c'était
dans,
juste
ouais. Ouais, dans le temps.
Sinon, c'était un peu poche.
Non, on avait un chèque aussi, là.
Okay.
Puis on était vraiment bien traités. Tu nous invitais, ils nous payaient toutes les dépenses, le vol, puis tout ça. Puis il y avait des bourses aussi qui allaient avec ça. Fait
OK.
Que, ouais, fait que, ouais.
C'est ça. Fait que ça a été le premier championnat que tu as gagné.
Ouais, exact, ouais. Okay. En freestyle, ouais.
Puis ouais. C'est ça, tu sais, participer aux X Games, ces affaires-là, ouais. Man, t'as dû... tu sais, parce que t'es vraiment comme une référence là, du motocross freestyle.
Mm.
Fait que, tu sais, ça a dû être écœurant de participer
ouais,
ben, à ça.
Ouais, puis tu sais, les X Games, ça a été des expériences incroyables. Puis tu sais, nous autres, on était... Ce qui m'avait frappé là-bas, c'est que... Tu sais, on était habitués de faire de se démener, finalement, pour gagner notre vie dans des événements un peu tout croche, tu comprends? C'était comme un peu à bric-à-brac. Puis, les organisations, c'était pas des grosses affaires. Les événements que je faisais au Québec, des trucs comme ça, c'était des événements locaux, si tu veux. Puis, okay. Les budgets n'étaient pas là. Puis, c'était un peu... Pas qu'ils se sacraient de nous autres, mais on n'était pas la priorité. Ils faisaient des courses, puis il y avait le concours de saut, puis t'es comme, OK, arrangez-vous avec ça, puis faites des niaiseries là-dessus, tu sais. Fait que... Fait que c'était, des fois, c'était pas super, puis là, se faire payer, puis c'était comme ben embryonnaire, tout ça. Puis là, quand je suis arrivé au X Games, là, j'ai comme compris, waouh, OK, c'est supposé d'être de même. Ils t'accueillent, l'hôtel, après ça, t'as un lounge pour les athlètes, tu relaxes, t'as de la bouffe, tu sais, ils te donnent un petit paquet cadeau, t'as la compétition, les photos, tout est professionnel, tout est clean, tout est... Là, je suis comme, waouh, OK, ça, c'est la vraie affaire, t'sais. Là... Ouais. Je suis comme, je suis vraiment
c'est
bien.
C'est ça,
là.
Tu te sens comme un...
Ouais, ben, comme un pro, là, ouais, tu sais. C'est un peu comme jouer dans une ligne de garage, puis du jour au lendemain, t'arrives dans la Ligue nationale. Mm-hmm. C'est la même affaire.
Okay.
Tu passes de la Ligue de garage à manger des hot dogs un peu mauvais à la cantine, tu comprends, avant la game, hein, à être dans la Ligue nationale, puis tu t'occupes plus de rien. Puis... Fait que ça a vraiment été ça, la différence. Fait que ça a été super cool, les commanditaires encore là, c'était le fun, je me suis fait aider... On the spot là-bas. Le gars me regardait, hey, veux-tu du gear? No Fear, dans le temps, faisait de l'équipement de motocross, tu sais. Puis il faisait du linge, puis tout ça. Puis il y avait vraiment une belle ligne d'équipement de motocross, No Fear. Puis le représentant était là, puis il m'a vu. Tu sais, putain, tu as besoin de gear? Oui, je sais pas, il me donne ça, il me donne des bottes. Genre, je m'étais ramassé qu'un kit à peut-être 800$ de même dans le temps, de le dire, mm-hmm. juste parce que le gars voulait m'aider, tu sais. Puis.
Mm-hmm.
Puis.
C'était-tu quand même payant faire ça, des sauts en motocross?
Les...
Parce que tu t'es rendu quand même ouais. crissement ouais. loin. Puis on dirait ouais. que, tu sais, ça n'a pas été.
Ouais. Les X Games, c'était bon. Il y a eu des événements qui ont pas été payants, mais qui ont été super le fun. Il y a eu des événements qui ont été bien plus gros comme les X Games qui sont pas payants, pour moi, en tout cas, parce qu'il n'y avait pas. Il y a ben des dépenses de relier à ça quand même. Une année, j'ai fait de l'X Games à San Antonio, au Texas. Là, mon bike, il faut qu'il se ramasse là-bas d'une façon. Mm-hmm. Fait que là, il faut que je ship mon bike là-bas. Moi, je prends un vol. En tout cas, ça... Fait que pas, ça coûte super cher. Mais tu le fais parce que c'est le fun. Puis la visibilité qui vient avec ça. Puis c'est t'as pas le choix. Tu dis pas non à ça. T'sais. Tu fais pas ça. À la base, tu le fais pas pour l'argent. Puis ça, tu le fais encore moins pour l'argent. T'sais. Mais à un moment donné aussi, il faut que tu payes tes comptes puis tu as besoin de gagner de l'argent, tu sais.
Ben oui.
Fait qu'il y a eu des deals qui ont été meilleurs que d'autres, plus payants que d'autres, des commanditaires aussi.
Ouais, ça va ouais. être... C'est pas mal les commanditaires ouais. qui te font...
Ouais, fait que commanditaires et tout. Ben, c'est une partie, finalement, de ton année, tu sais. Ouais, okay. c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, ben, là, je parle pour moi, là, tu sais, quand j'en faisais, il y avait une partie, c'était les revenus des spectacles. Ben, un peu comme toi, tu sais. Bon, tu as les spectacles. Après ça, il y avait les commanditaires. Puis, à un moment donné, bon, les commanditaires ont baissé, mais là, les shows ont remonté. Fait que là, début des années 2010, les commanditaires étaient moins bons. Mais là, après ça, j'ai eu un contrat en Chine, tu sais, pour aller faire des shows là-bas. Fait que là, tout d'un coup, là, tous mes revenus, c'était quasiment juste des shows. Mm-hmm. Mais tu sais, j'en faisais assez que c'était bien correct. Là, je m'en sacrais pas mal, tu sais, des commanditaires. Fait qu'il y a eu des périodes comme ça. Après ça, en 2010, j'ai signé un deal avec Rockstar, tu sais, Boisson Énergie. Fait que ça, pas c'est de la bonne argent parce que c'était des grosses compagnies qui avaient beaucoup de budget puis qui voulaient justement investir dans ces sports-là.
Ouais.
Pour être présent. Puis là, moi, j'avais déjà des spectacles, j'avais des tournées, puis j'avais des. J'avais quelque chose d'organisé, finalement. J'avais une cédule, tu sais, à leur fournir. Fait que là, paf, je leur ai présenté un plan. Puis ils ont sauté là-dessus. Puis fait que là, je me suis ramassé avec un salaire, tu sais, de Rockstar. Fait que ça, c'était la première fois que j'avais ça, là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là,
ça peut t'aider.
Ouais, ouais, ben créer, ça, c'est que tu peux. Tu sais, c'est que tu peux planifier, au moins, tu sais. Ouais. Je veux dire, ben, tu le sais, là, dans tout ce qui est entertainment, t'as oublié les assurances, oublié
tes travailleurs autonomes.
T'es travailleurs autonomes, là. Ouais. T'as aucun avantage, là. Non, plan ça. De retraite, oublie ça, t'as rien de ça. Fait que, tu sais, faut que tu t'organises par toi-même, puis
si t'es chanceux, ouais. Tu vas mourir avant 50 ans.
Non, c'est ça, exact. ouais, fait que t'as rien de ça. Fait que tout ça pour dire que quand, que, par exemple, Rockstar est arrivé, puis là, je suis tombé avec un salaire. Fixe à chaque mois que je recevais, là, tout d'un coup, t'es comme, OK, là, j'ai ça, là, je peux placer ça. Là, tu sais, là, c'est le fun.
Puis, moi, j'ai une question pour toi, puis t'es pas obligé d'y répondre, ouais. Là, au pire, on la coupera, là. Mais, moi, je me suis tout le temps demandé, qu'est-ce que tu penses de Red Bull puis Rockstar qui s'associent à des compétitions de sport? Tu sais, ouais. Moi, on dirait que ça va pas, tu sais, parce que pour moi, c'est de l'esti de scrap, là, cette marde-là.
Ouais.
Tu sais, je donnerai jamais ça à mes enfants, même des enfants que j'aurai jamais. Mais, tu sais, je donnerai jamais ça, tu sais. Fait que, on dirait de l'associer avec le sport, je sais pas, on dirait que ça marche pas dans ma tête. Je me demande tout comment tu vois ça.
Ben, moi, c'est sûr que je suis de l'autre côté de la clôture, de ce côté-là, pour l'opinion que j'ai envers ces compagnies-là, parce que j'en ai profité, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que c'est sûr que. si j'avais été assez riche pour les retourner de bord, leur dire, regarde, non, fuck you, je l'aurais peut-être fait, tu comprends?
Ouais.
Mais je n'avais besoin. Fait qu'à un moment donné, t'as besoin de te financer. Là.
Mm-hmm.
Puis, mais c'est pas. Premièrement, l'affaire là-dedans, c'est que ces produits-là, ce qu'ils représentent, c'est quoi? C'est vraiment l'adrénaline. C'est vraiment repousser tes limites. T'sais. C'est vraiment ça qu'ils vendent, tu comprends? Fait qu'il y a vraiment un fit naturel avec les sports extrêmes. T'sais, t'as besoin d'un petit push d'énergie, t'as besoin de te pousser encore un peu plus loin. Fait que tu sais, à date, tu sais, le si tu veux, le texte, mais le discours se tient, si tu veux, entre ça, là. Mais après ça, c'est sûr que, bon, côté santé, on s'entend que personne ne m'a recommandé de boire de la boisson énergie. Tout le monde le sait que c'est pas bon pour la santé. Mais tu sais, on dit-tu la même affaire que du tennis qui était commandité par quoi, du Maurier pendant. Tu comprends, moi, les internationaux de,
ouais, c'est ça
de tennis.
Ça, non, mais tu sais, pour moi, ça a autant de liens ensemble.
Mais tu sais, Rockstar et Red Bull ont pas mal plus de liens avec le motocross et les sports extrêmes que du Maurier avec le tennis.
Ouais.
Tu comprends? Je veux dire, qui c'est qui joue tennis puis finit du Maurier? Il y a pas de... C'était-tu ça du Maurier? Je sais plus.
Je sais pas, mais
peut-être. Il me semble que c'était... Il y avait une... vous allez pouvoir l'écrire dans les commentaires, là, mais il y avait une compagnie de cigarettes qui, tu sais, comment dites, l'international de tennis, c'est allé à Montréal. Fait que ça a zéro lien. Après ça, ben, tu sais, il y a eu la vague des compagnies de bière. Après ça, comme je te parlais de Coors Light ont investi des millions...
Ouais.
Des millions dans tout ce qui est sport extrême, encore cette vague-là, tu sais, de motocross,
mais t'sais, snowboard. Au moins, tu sais, Coors Light, tu sais, Bud, puis tout ça, tu sais, au moins, tu sais, c'est faut être adulte pour les boire,
ouais.
Là, tu sais. Fait que, tu sais, déjà là, je vois que, ben, au moins, tu sais, le monde est beau.
Ouais, mais.
Plus qu'on s'entend.
faut être adulte, mais on s'entend.
Que... Ouais, je sais, là, mais tu sais, il y a au moins ça, là. Mais, tu sais, puis ça fait party, ça fait. Ouais,
ça a du sens, ça aussi, c'est ça.
Puis, tu sais, toi, t'as dû... C'est ça, là, tu sais, je t'écoute parler depuis tout à l'heure, man. T'as dû en vivre, là, des parties, là, en tabarnak, là, tu sais. Tu sais, surtout quand t'es commandité par Coors Light ou des
autres. Ça a été bon pour ça.
Ah,
Coors Light, l'air Coors Light a été bon.
Tu peux-tu raconter un party le plus... Le plus grandiose, je sais pas, que t'as participé, tu sais?
Ben, les parties Coors Light étaient pas pires. Même si c'était tout était fake dans le sens que c'était tout était arrangé, ils faisaient des espèces de manoirs mystères au sein de nez, on avait fait ça aussi, on avait fait un show pour eux autres, puis tout est fake un peu, puis tout ça.
Ah, t'as-tu été toi dans le manoir Coors Light?
le fameux manoir Coors Light. Ah, oh, t'en rappelles?
Ben, des... Moi, je me souviens que je ne l'ai très pas gagné.
Moi, j'y étais.
Ouais. OK, mais ça donnait que c'était dans tes années. Oui,
ouais, c'était 2007, 2008. Ouais, 2008, le manoir Coors Light.
Parce qu'il y avait, puis après ça, il y avait le camp Bud, puis Bud Light qui ont essayé de...
Ouais, ça, je l'ai pas fait.
Budweiser, ouais, ben, c'est ça, c'était ton compétiteur. Puis, OK, ça ressemblait à quoi, ce style? Crise de manoir, là.
Ben, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que... Ben, c'était pas... Premièrement, c'était pas un vrai manoir. Première des choses. Deuxième... ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il louait un chalet de ski. Dans une montagne de ski, tu sais. Puis c'était en Ontario, je sais plus c'était où. Mais...
Fait qu'il louait... Ça devait être un tabarnak de chalet.
Hein? Ouais, c'était correct, c'était correct. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr qu'il louait pas le top du top parce que tout se décrissait, là. Je veux dire, puis là, il mettait des décors, des suivis, des ça, tu sais, c'était pas... C'était pas la fin, tu comprends, c'était pas la fin du monde. Ils savent très bien qu'il va y avoir du vomi partout après, puis
ben,
tout ça,
c'est
là.
Ça, ouais, j'imagine c'est sûr de leur côté.
Non, c'est ça, exactement. Fait que c'était pas un 5 étoiles, là, mais c'était quand même, c'était bien correct, là, pour ce que c'était.
Puis, c'est quand même décevant que t'apprends que le chalet OD, il est de mieux qualité que le manoir Coors Light.
C'est ça, exact. Puis, fait que dans le fond, moi, j'avais été engagé... Ben, ça faisait partie de la tournée de show qu'on faisait, mais c'était vraiment tard. C'était en novembre, cette party-là. Puis, là, je me rappelle qu'on gelait. On a vu qu'on fasse deux, trois sessions de jump, mais c'était genre à 10-11 heures le soir. Puis, pour nous autres, c'était vrai. Ça n'avait pas été trippant comme pilote. Ça n'avait pas été le fun de faire ça. Mais après ça, bon, il y a le party. Puis, fait qu'il y avait tout. Il a mis des décors partout, des gros rideaux, un peu rendu un petit peu plus dark, puis des foyers, puis des gros tapis. Puis il y avait des personnages finalement un peu partout dans le chalet. Il y avait des filles. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils font affaire avec des agences de mannequins. Puis ils disent, OK, on a besoin de 20 filles ou 25 filles pour un événement qu'on fait. Puis envoyez-nous nos filles, les filles. Puis après ça, les filles, ils avaient des costumes. Puis il y avait des costumes, peu importe de... Il y en avait un des personnages, c'était une maid, tu sais, une femme de ménage, puis un autre, c'était, je sais plus trop, là, tu sais, plein d'espèces de thématiques de même. Puis, il faisait des jeux, puis des petites épreuves, plein d'affaires de même. C'était quand même cool, c'était correct. Puis, il y avait. Est-ce qu'on couchait là? Je pense que non. Je pense que c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, rendu genre à 2h du matin, le party finissait. Toutes les gagnants rembarquaient dans des autobus. Toutes les filles rembarquaient dans un autobus séparé.
Ben,
les filles s'en allaient à une autre place. Toutes les gagnants s'en retournaient à l'hôtel qui avait été déjà désigné puis booké pour eux autres.
Ouais.
Puis nous autres, on retournait, je sais pas trop. On repartait, tu sais. Et avec nos affaires. Mais tu sais, ça, c'était drôle. Mais un party que j'ai voulu aller. Je sais pas si je devrais le compter, ça. C'est parce que c'est.
Au pire, compte-les, puis je le coupe.
Ouais, mais c'est ça, mais. C'est rien d'incriminant vraiment pour moi, mais quand même, quand j'étais. J'étais en Grèce trois fois, tu sais.
Y avait-tu pour des Jeffrey événements. Epstein là-dedans?
Non. Non, non, non. Il n'y avait rien de ça. C'était avant tout ça. Là,
si la réponse est oui,
Mais. C'était en 2003, puis j'étais allé faire un show à Athènes encore, mais là, on faisait un show, un espèce de gros salon de la moto extérieur sur l'ancien aéroport d'Athènes qui venait de fermer. Tu sais. Fait que là, il y avait plein de motos, plein de bikers, mais toutes les sortes, là, tu sais, des motosports, des Harley, des ci, des ça. Puis moi, m'avait engagé pour faire des sauts, tu sais. Fait que là, j'étais là, puis je me tenais avec une gang du Vermont qui était là pour faire le show aussi, puis eux autres faisaient des stunts en moto de route, tu sais. Puis, fait que là, j'étais tout seul là-bas, fait que je m'étais mis de chum avec eux autres, puis je fais mes affaires, ils font leurs affaires. On était là pendant peut-être une semaine. Puis là, dans ce gros événement-là de rassemblement de motos, il y a des motocyclistes avec des patchs dans le dos qui arrivent, des
Hells. Des ouais.
Fait qu'eux autres, ils arrivent, puis là, ils nous voient, commencent à venir nous voir, commencent à venir nous parler. Mais c'était cool, là, tu sais, c'était pas intimidant, rien de ça. C'est un autre vibe différent en Europe, là, pour ce qui est de ça, je pense, là. En tout cas, de ce que je connais, c'est un autre vibe là-bas, puis... c'est ça. Fait que les gars venaient nous voir, on parle, genre, c'était bien correct. Puis Là, on est à l'hôtel. Le show est fini. On est à l'hôtel. J'étais avec les Américains, les gars de stunt. Puis là, il me dit, Ben, il dit, écoute, il dit, j'ai parlé au gars des Hells, puis il nous a invités à soir au party, à leur party, chez eux, genre dans leur bunker, on a fait la même, tu sais. Fait que là, oh, ouais, pis ça. Puis là, on s'est demandé tout, qu'est-ce qu'on y va-tu, on y va-tu pas. On savait pas trop, tu sais, qu'est-ce qui était pour arriver, puis
ouais.
T'es comme, OK, on y va. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, je vais être avec eux autres au moins. Fait que s'il se passe de quoi, je suis pas tout seul, tu sais, peu importe. Fait que, OK, on va au party des Hells ce soir. Yes, c'est rock on. On fait partie de la gang. Yes, tu sais, on se passait bien hâte. Puis, finalement, on est dehors à sa terrasse de l'hôtel. On attend pour un taxi, tu sais. Puis, moi, j'étais comme, OK, je vais aller aux toilettes, tu sais. Puis, je reviens 2 minutes. Je m'en vais aux toilettes. Quand je reviens, les hosties étaient partis.
Ah.
Puis le taxi est arrivé, il était parti au party sans moi.
Oh, ils t'ont pas attendu.
Ils m'ont pas attendu! Fait que là, j'ai manqué le party des Hells Angels à Athènes. Puis, fait que là, écoute, le lendemain, c'est là que j'ai parlé au gars. Pi! Là, il dit, ben, c'était malade. Il dit, écœurant. Fait que là, il y a d'autres affaires que c'est drôle, qui se sont passées qui implique des madames pis tout ça, fait que faut imaginer.
Ouais, c'est ça.
Anything goes.
Gros crise de power.
Ouais, tu sais, c'est sûr que ça. C'est des bons vivants, j'imagine.
Ouais.
Ouais, mais je peux pas, je sais pas, j'ai pas été.
Pas
fait
été.
Que c'est le rendez-vous manqué que là, j'ai
c'est
eu.
Ça
arrêté pas mal dans.
Tout où tu t'imagines qu'est-ce qui s'est passé là.
Ouais, c'est tout. C'est juste dans ma tête. Hein, c'est mieux de même, peut-être.
Ah, ouais.
Je sais pas.
Ah,
ouais.
C'est cool.
Ouais.
Puis, ben, c'est ça, fait que. Toi, tu t'es promené vraiment partout. Dans le monde. Là,
ouais.
Autant, c'est ça, en Chine, Amérique du Nord, Amérique ouais. du Sud,
ouais.
en Europe.
Ouais.
Y a-tu des places que tu aurais aimé ça faire que tu n'as pas plus.
Ouais, pas ben, je t'ai supposé aller en Afrique en faire, puis je me suis blessé la semaine avant, mais je n'ai pas pu y aller. Mais j'avais. Quand je participais au championnat du monde, ça commençait en Allemagne, puis la semaine après, on s'en allait en Afrique du Sud en faire. Puis on allait faire un tournage là-bas dans le désert, puis tout ça. Puis. Je me suis planté en faisant un backflip, je me suis cassé la clavicule. Fait que ça l'a arrêté là, puis j'ai pas pu. Puis c'était comme une espèce de tournée, c'était une tournée de malade, c'était un voyage de fou. C'était Allemagne, après ça, c'était Afrique du Sud, puis je pense qu'il y avait une troisième ville qu'on faisait, je sais plus trop c'était où là. Mais ça a arrêté vraiment un voyage écœurant que j'aurais aimé faire, mais j'ai finalement ça a pas donné à cause des blessures.
Quel pays t'as le plus aimé?
Ben, c'est dur à dire, parce que, tu sais, chaque place est différente, puis chaque place est unique dans son style, puis, tu sais, moi, l'Asie, ça m'intéressait pas, tu sais, j'avais, avant d'y aller, moi, l'Asie, ça me disait rien, je suis comme, ah, ouais, tu sais, on connaît pas vraiment leur culture, puis, tu sais, c'est, puis, finalement, je me suis ramassé là, tu sais, par défaut, parce que j'ai travaillé là-bas pour un show de Franco Dragon, puis, j'étais là pendant 5 ans, fait que j'ai appris à connaître la culture, puis, le paysage, les autres pays qui entourent. Moi, j'étais à Macao, là, qui est à côté de Hong Kong. Fait que t'es vraiment, tu sais, à côté du Laos, à côté du Vietnam, à côté de Thaïlande. Tu sais, ça, c'est toutes des places écœurantes, là, tu sais. Puis, fait que, tu sais, j'ai comme vraiment appris à connaître ces endroits-là, ces cultures-là, la bouffe. La mentalité, tout ça, fait que c'est vraiment, vraiment... C'est sûr que c'est spécial pour moi parce que j'ai travaillé là longtemps. Fait que, tu sais, c'est sûr que je connais un petit peu plus ces endroits-là que, par exemple, je sais pas, une place en Europe, une affaire même. C'est sûr que l'Europe, c'est d'un top aussi, là.
Mm-hmm.
C'est vraiment me faire plaisir. J'ai bien aimé l'Asie, mais vraiment faire plaisir qu'un voyage ira en Europe. Sûr. Parce que je trouve que c'est tout le temps... Tout est le top là-bas. La bouffe, les chars, les paysages, l'architecture, les villes, l'histoire. Je veux dire, il n'y a rien qui bat ça. Là, fait que j'ai eu la chance d'y aller là, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre.
Mm-hmm.
Fait que ça, je te dirais que si tu as de l'argent à dépenser, tu te fais un trip en Europe. T'es pas déçu.
Ouais.
Non, t'es pas déçu. Non.
Ben, c'est ça. Puis là, t'as parlé de Franco Dragon.
Ouais. Ouais.
Est-ce-tu de nom de méchant des ouais. films des années 80? Là?
Il t'a prédestiné avec son nom, lui faire du show business.
C'est ça. Fait que c'est ça. Lui, il t'a approché. Puis c'est qui, lui? Puis c'est quoi qu'il t'a proposé?
Dans le fond, Franco Dragon, c'est un metteur en scène, okay, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé étroitement avec le Cirque du Soleil au début. Quand ils ont les plus gros spectacles du Cirque du Soleil qui marchent encore aujourd'hui, comme 25 ans plus tard, c'est des shows que Franco Dragon a mis en scène. Puis tu sais, un metteur en scène, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ça fait, un metteur en scène? Ben, c'est vraiment lui qui va mettre l'histoire puis l'idée qu'il y a dans sa tête. C'est vraiment lui qui va la mettre sur le stage puis comment ça va se passer, puis les personnages, puis les décors, puis les effets spéciaux, puis vraiment, vraiment, le show, c'est vraiment lui qui l'a dans sa tête, puis qui travaille avec les artistes, avec les acrobates, les danseurs, les plongeurs, qui travaillent vraiment avec eux autres pour livrer une idée, finalement. Fait que c'est vraiment ça, lui, son génie. C'est vraiment, vraiment ça, puis... Fait que lui, dans le fond, il a fait un partnership avec Guy Laliberté. Fait qu'ils ont eu des énormes succès à Vegas. C'était avec O, Le Rêve, Santa Blanco. Toutes les plus grosses productions du cirque, c'est tout lui vraiment qui est en arrière de ça, qui a les idées, si tu veux, là, pour faire développer un show. Puis
lui, c'est ça. Lui, il t'a approché.
Mmh. Ouais, c'est pas lui personnellement qui m'a approché, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans le fond, dans l'organisation. Puis cette personne-là est en charge de trouver des pilotes de moto. Parce que dans son dernier show qu'il avait créé à Macao, en Chine, Macao, c'est la capitale du gambling en Asie. C'est le Las Vegas de la Chine. Fait qu'il y a des casinos et des salles de spectacle. Puis Dragon, lui. Il dit, waouh, il y a de l'argent à faire là-bas. Les Asiatiques, sont fous sur les chiffres, les jeux de dés, ces affaires-là. Puis la population est là. Il y a combien de milliards de population en Chine? Il y en a beaucoup, là. Fait que c'est sûr que c'était pour marcher. Fait qu'il a fait un deal avec une compagnie qui a des casinos là-bas. Ils ont créé un spectacle. Puis dans ce spectacle-là, qui s'appelait House of Dancing Water, il y avait un numéro de moto, le Freestyle Motocross. Puis c'était le premier show de cirque. Même si c'est plus vraiment du cirque, là, c'est plus une pièce de théâtre, c'est stéroïde, là, mais ça a partie du cirque. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien de ça. Là. Mais ça, c'est lui, ça, d'ailleurs. Ce nouveau style de cirque-là, c'est vraiment Franco Dragon qui a amené ça. De laisser faire les tigres et les éléphants, puis de faire le switch. Puis, fait que lui, il est arrivé avec l'idée de faire une histoire, finalement, alentour de. Qui a plein de liens avec la Chine, évidemment, puis l'Asie. Puis d'incorporer un segment de freestyle motocross là-dedans. T'as complètement mongol. Juste à...
Ben ouais, mais ça se rapproche parce que c'est des acrobaties.
Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais,
toute une machine pour.
C'est ça. Puis il y avait un lien dans l'histoire avec ça. Puis c'est super spectaculaire. Fait que les spectateurs qui venaient voir ça, étaient comme. Les Asiatiques, sont pas super exposés à ces sports-là. Là. Fait que ils étaient comme, waouh, ils trippaient. Puis, fait que le gars cherchait un pilote. Moi, je connaissais ça. Puis ce qui est drôle, c'est que. La personne qui est en charge de trouver des pilotes pour le spectacle, je l'avais rencontré comme 10 ans avant à Athènes. La première fois que j'étais à Athènes pour faire la compétition internationale, ma première compétition internationale, ce gars-là, c'est un Belge, il s'appelle Jimmy Verburk. Puis il était là comme pilote, je l'avais rencontré là, puis c'était comme mon coéquipier chez Honda Grace.
Puis, quand t'as décollissé à la moto.
C'est ça, exact.
Dans le poteau.
Mais c'est drôle parce que, tu sais, fast forward comme 12 ans plus tard, puis c'est lui qui est en charge de trouver les pilotes pour... C'était à l'époque, c'était... Ben, ça allait être encore un des plus gros shows sur la planète de ce type-là, là, vraiment.
Ah,
plus gros budget.
Puis toi, t'as pu participer à
ça. C'est ça. Fait que là, j'ai rentré là comme
pendant
ça.
Pendant 5 ans, c'est
ouais.
ça?
Fait que j'ai rentré là comme ça à cause de moi, ce contact-là. Puis, fait que là, j'ai comme appris le monde du cirque carrément, parce qu'on s'entend, tu sais. Un petit gars de Yamachiche qui parlait pas anglais dans le temps, qui faisait du motocross dans le champ. Puis le monde du cirque, puis des artistes, puis tu comprends, les metteurs en scène, c'est deux mondes bien, bien différents. Mm-hmm. Mais lui, il a trouvé une façon de marier ces deux affaires-là qui était écœurant, finalement, là, avec évidemment avec les moyens du cirque, avec les budgets comme complètement incroyables. On parle de... Je pense que la production, c'était... Le coût de production, c'était 250 millions, je pense. Fait que t'imagines... Tu sais, juste pour le... Sur le show, il y avait 250 personnes qui travaillaient. T'sais, je veux dire, 250, c'est juste une entreprise, 250 personnes. Mm-hmm. Fait qu'évidemment que tout est over the top, les costumes sont over the top, tout est fois 1000, tu sais, les conditions. Fait que ça, c'était la Ligue nationale pour moi. T'sais. Fait que là, je me suis ramassé là-bas à faire tous ces shows-là.
Puis... ça, ça a dû être plus payant.
Ouais, aussi. Fait que ça, ce qui était cool, c'est que là, j'avais une paye qui était fixe. Je savais combien je faisais. Puis, tu sais, j'avais pas beaucoup de dépenses. Fait que ça, c'était le fun aussi. J'habitais à côté du théâtre. Tu sais, là-bas, tu veux pas avoir un char, là. Il y a tellement de trafic, puis de monde, puis tout ça. Fait que j'avais un scooter.
Puis t'as-tu habité... Ah ouais? T'as-tu habité en Chine?
Ben, j'habitais à Macao. J'habitais. Fait que, tu sais, Macao, là, c'est un territoire, c'est un pays dans un pays. C'est un peu comme... Pour le faire bien, bien vite, là, c'est que...
Comme Hong Kong, un
peu. C'est ça, exactement, comme Hong Kong. Fait qu'ils ont leur... Macao ont leur gouvernement, leur argent, leur langue qui est différente de la Chine. Ils parlent il parle mandarin. Il parle mandarin, puis la Chine parle cantonais.
Okay.
Hong Kong parle mandarin aussi. Puis il y a beaucoup d'influence, Macao, il y a beaucoup d'influence de Portugal.
Portugal, ouais. OK.
Tout ça pour dire qu'il y a une grosse influence portugaise là-bas. Ça, c'est un espèce de territoire qui appartenait au Portugal. Fait que tout ce qui est architecture, puis tout ça, puis il y a beaucoup de Portugais qui habitent encore là-bas. À Macao. Fait que c'est un melting pot, Macao, de Portugais puis de Chinois, mais qui appellent des Macanais, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu différentes langues, tout ça. Beaucoup de monde qui vient de l'extérieur pour travailler là aussi, parce qu'il y a beaucoup de travail, de casinos. Fait que beaucoup de monde, justement, de la Thaïlande, du Laos, des Philippines, qui sont habitués de faire 5$ de l'heure là-bas, tu sais, à Phuket, puis là, ils arrivent là, puis ils en font, tu sais, 25, là, tout d'un coup, parce que les conditions, je veux pas, sont bien meilleures, tu sais.
Ben ouais.
Fait que,
ouais. Ah, ça a dû être une belle expérience. Fait que là, toi, t'es resté là 5 ans,
ouais.
Là.
Ouais.
Puis aussi, j'ai lu que t'es devenu consultant pour Evenco, puis des entreprises de même.
Ben, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai fait ce contrat-là, là-bas, puis... Après ça, ce qui est arrivé, c'est que je me faisais demander de plus en plus pour travailler sur des concepts de show, des trucs comme ça, dont... tu sais, Evenco, ce qui est arrivé avec eux autres, c'est que le Super Motocross de Montréal a eu le même promoteur depuis le début. Ça a commencé en 77, je pense, la première édition. Jusqu'à 2012, ça a été le même promoteur qui était Pierre Corbeil, un gars de Montréal, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Puis l'événement n'allait plus bien non plus en 2012. Avait... une grosse baisse d'assistance pis tout ça. Puis fait que l'événement est pas mort, mais arrêté carrément, tu sais, de 2012 à 2015. Puis 2015, ce qui est arrivé, c'est que Gestev, eux autres, pour ceux qui savent pas, là, dans le fond, c'est eux autres qui ont produit le Crushed Ice à Québec, l'événement de patin dans les rues de Québec. Ils produisent plein d'événements, là, mais la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne, plein vraiment de gros événements. Puis eux autres ont eu le mandat finalement de la RIO de ramener en vie le Super Motocross de Montréal. T'sais. Fait que c'était un beau challenge pour eux autres. Puis du président aussi, Patrice, me semble que c'est Demers son nom. Un gars super gentil de Québec. Puis, fait que là, eux autres, c'était un défi pour eux autres de ramener cet événement-là. Puis, quand ils ont ramené cet événement-là, ben, ils m'ont demandé, moi, de m'occuper, si tu veux, de la portion freestyle, la piste, ou l'aménager, les rampes, les pilotes engagés, tout ça. Parce qu'ils savaient que j'avais de l'expérience là-dedans. Fait que je me suis ramassé à travailler de ce côté-là aussi, de l'autre côté, finalement. T'sais, pas juste comme pilote, mais comme consultant, si tu veux. Là. Fait que, ouais. Ça, c'était bien cool aussi. Là,
puis, je me demande, tu sais, ça, je t'écoute, comment qu'il va, là, le milieu du motocross là, au Québec? Là, es-tu en santé ou ça a pas mal descendu? Ou...
Ben, c'est différent de ce que c'était avant. T'sais, mettons, les courses de motocross, on recule peut-être, il y a, je sais pas, 15 ans. T'sais, c'était pas rare d'avoir une couple de milliers de personnes venir voir ces événements-là, t'sais, des spectateurs, puis tu venais voir ça, puis c'était bien le fun, puis ça. Mais puis dans ce temps-là, les pilotes, c'était plus des adultes. C'était plus réservé à des adultes. Là, aujourd'hui, il y a moins de spectateurs, beaucoup moins de spectateurs dans ces événements-là, mais le taux de participation est pas mal plus élevé. Fait que tout ce qui est enfants, les classes, catégories d'enfants, Beaucoup plus. C'est un sport qui est plus familial maintenant. Fait qu'il y a des classes aussi pour les. Des classes pour les femmes. Okay. Fait que tu sais, ta blonde veut en faire, mais elle peut embarquer, il va y avoir une catégorie pour elle. Fait que toute la famille peut se retrouver à participer à une catégorie dans un fait.
Mm-hmm. Avant, il n'y en avait pas.
Non, c'est ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, en 92, il n'y avait pas de catégorie pour moi, j'avais 10 ans. Puis il n'y avait même pas de catégorie pour les jeunes de cet âge-là. Mm-hmm. Fait que ça montre à quel point ça a changé, puis c'est rendu pas mal plus accessible. Orienté sur la famille. Fait que. Puis l'autre affaire, ben c'est sûr qu'il n'y a plus ce gros événement-là qui est le Super Motocross de Montréal au Stade Olympique, il n'est plus là. Fait que c'est sûr que c'est une grosse vitrine promotionnelle. Mm-hmm. Puis dans les bonnes années, écoute, on faisait des tournées de promo de fou, là. C'était. Écoute, TVA, je suis bien chum avec Babu, je me ramasse. Babu m'a amené à Musique Plus.
Il est nice, plein. Babu.
Ben oui, il est venu l'autre jour aussi. Hein?
Ben, puis, on se parle souvent. Ouais, il montre souvent des photos de son esti de gros chat.
Ouais, il est énorme.
C'était un esti perle, Babu.
Puis, tu sais, Babu, ça fait super longtemps que je le connais. Dans le temps, il travaillait à C'est quoi, tu sais, je sais même plus quelle année, 18 peut-être, fait que je l'ai connu là. Puis... Fait que, tout ça pour dire que j'avais une couple de chums dans le milieu, fait qu'on faisait des tournées médias, mais comme de fou pour parler de l'événement, les radios, la télé, TVA, name it, là. Fait que ça donnait une méga vitrine promotionnelle pour nous autres. Fait que ça l'aidait le sport, les commanditaires, tout ça. Mm-hmm. Là, ça, c'est plus là.
Ouais, mais, c'est ça. Tu trouves-tu qu'ils couvrent plus, justement?
Ben oui, c'est sûr que c'est un sport qui va toujours être underground. C'est pas du soccer, c'est pas du baseball, là, c'est pas du hockey, encore moins de hockey. Fait que c'est sûr que ça va toujours être plus underground. Mais tu sais, en même temps, les temps changent, puis les façons de communiquer aussi changent. T'sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de podcast, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces affaires-là. Fait que, dans cette heure, t'as plus besoin vraiment d'une radio pour faire parler de toi. Tu sais, si t'es original dans ce que tu fais...
T'es capable de te réinventer.
T'es capable de te réinventer. Là, fait que t'as plus autant besoin d'eux autres. Oui, c'est sûr, c'est le fun. Puis c'est sûr que ça va vraiment chercher les masses. Là. Tu fais une entrevue à Salut Bonjour, on s'entend que tu viens de rejoindre peut-être je sais pas 100 000 personnes en claquant des doigts. Là,
ah ouais, toi, tu as justement participé à genre un des concours à Snyder.
Ouais, ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Ça s'appelait les Talents Bleus. Puis ils cherchaient des concurrents. Puis dans le fond, cette compétition-là, de parenthèse, c'était plus une promotion sur les régions du Québec que d'autres choses, dans le sens qu'ils cherchaient des concurrents qui représentaient plein de régions différentes. L'Abitibi, Rive-Nord, Rive-Sud, Sherbrooke, tout ça, puis évidemment, Mauricie. Fait que là, ils checkent Mauricie, puis eux autres, c'est un show de télé, ils ont un show à monter. Fait que là, ils reçoivent des candidatures, t'sais. Puis là, ils checkent ça, puis... tu sais, ici, les candidatures, c'est... j'ai pas un gars qui fait... qui jongle avec des... Je sais pas, des niaiseries, des cossins de même. Ouais. C'est comme, OK, ouais. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher du monde, tu sais, pour essayer de brasser la soupe un peu. Puis, moi, ils m'ont approché pour participer à ça. Puis, tu sais, je venais de la Mauricie. Fait que là, ça fitait bien. Puis, il y a peut-être personne vraiment pour la Mauricie. Fait qu'ils sont venus me chercher. Puis, ils disent, ah, tu pourrais-tu faire un numéro de moto? Puis, bon... Puis, il y avait... Si tu gagnais, c'était 100 000 piastres, je pense, à gagner quand même. Tu sais.
Tabarnak!
Ouais, ouais, ouais,
on est loin des petites caméras. Non,
c'est ça, on est loin de la caméra Sony. Là. Ouais, ou du trophée. Là. Fait que, 100 000, OK. Puis, anyway. Fait que
là, tu gagnes, puis t'es comme, pourrais-je prendre cette caméra?
Mais c'était juste l'argent, t'avais pas le choix.
Ouais, non, c'est ça.
Ils sont pas barrés. Tu sais, comme à OD, là, t'as le condo, les assurances, les chars, les meubles. t'as tout, là.
Ouais.
Mais,
fait que c'est ça, t'as participé.
Fait que j'ai participé, puis... ouais, ça a été cool, ça a été le fun. Puis c'est un chanteur qui a gagné. Ouais,
OK.
Ouais. Fait que,
c'est quoi que t'avais organisé? C'était... Parce que j'imagine que tu peux pas rentrer avec ta motocross.
Non, c'est ça, non. Fait que moi, il s'était déplacé, toute l'équipe de tournage, était venu chez nous, à ma piste. Puis là, on avait fait un setup avec le soir, avec de la pyrotechnie, puis plein d'affaires. C'était cool comme setup, c'était un beau setup. On avait une méga bombe qui explosait sur mon dernier saut, boule de feu. Puis
mais en même temps, c'est plate, parce que t'es un peu désavantagé, parce que toi, c'est de le voir live, qu'aujourd'hui, on est tellement plus impressionné par rien. Non, on voit tout, c'est à TV, YouTube.
Mais tu sais, En participant à ce show-là, je savais très bien que j'étais pas... J'aurais été vraiment surpris de gagner parce que c'est tellement un sport, tu sais, qui est niche versus une clientèle, les téléspectateurs qui écoutent la semaine des 4 juillet, qui est, on s'entend, grand public, ma tante, là. C'est rien contre les ma tante, là. Mais tu sais, on s'entend... Ouais. C'est pas Joanne qui va voter pour un gars de motocross à Yamaha qui fait des backflips à Yamaha, tu sais.
Ouais, elle va voter pour... Fait des de rock, là.
Non, c'est ça, exact. Fait... Là, ça sonne vraiment défaite, là. Mais... mais même avant de participer à Compé, j'étais comme, c'est sûr que je gagne pas.
Mais une belle vitrine.
Ben ouais, mais c'est une super belle vitrine, c'est le fun. Puis, bon, on verra ce que ça va donner. T'sais. Fait que, ouais. Mm-hmm. Fait que, ouais, j'avais fait ça. Fait que, hein?
Avant qu'on se laisse, j'aimerais ça savoir aussi, qu'est-ce que... C'est, ça a été quoi ton plus gros de accident que tu as eu? Parce que tu as dû en avoir quand
ouais,
même.
Ouais, j'en ai pas mal. T'sais. J'en ai pas mal. Puis ma plus grosse, ça a été... on a fait un show, c'était en 2010, puis on était en pleine rue, t'sais, puis on avait installé tous nos modules de rampe puis tout ça. Puis il ventait fort cette journée-là, c'était à l'automne, en septembre ou en octobre. Puis on a décidé de faire le show quand même, puis là, ben, on saute, puis là, je voyais qu'il ventait. Puis tu sais, le vent nous ralentit vraiment dans les heures. Fait que si on a le vent de face, il va faire en sorte qu'on va... On va reculer, c'est ça, exactement. Ouais. Au lieu de faire 75 pieds, on va faire peut-être 73 pieds de distance.
C'est-tu sur le calcul?
Ouais, ben on sait exactement où on s'en va, puis tu sais, on n'a pas même de marge de manœuvre. Fait puis c'est une même affaire de côté, tu sais. Puis comme de raison, j'étais arrivé sur un saut. Puis le vent est vraiment arrivé de côté, il m'a ralenti, puis j'ai atterri sur le coin de l'atterrissage, puis ce que ça a fait, c'est que je suis parti vraiment, j'ai fait une gauche-droite finalement, là, la moto a vraiment comme dansé d'un bord puis de l'autre comme ça, puis un coup que ça fait ça, tu peux pas le ramener, là, tu sais, puis ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, tu te fais fouetter comme ça, tu sais, ça le fait deux fois, puis là, la troisième, c'est là que tu revoles vraiment sur le côté, puis t'écrases comme une crêpe, là, tu sais. Mais là, j'étais rendu dans le bas de l'atterrissage, fait que là, au lieu d'atterrir dans une pente, j'étais rendu, j'atterrissais plus dans la pente, j'étais rendu à terre, là, tu sais, fait que j'avais fait quand même peut-être 25
vies. Sur quoi, de l'asphalte ou la
pente? Notre atterrissage est en métal, avec la pente est en plywood, avec une espèce de grip tape dessus, pour pas que ça soit glissant, que ça soit plus grippy, là, tu sais. Mais au moins, t'es dans une pente. Mais là, rendu aussi loin que ça, là, la pente est finie, puis c'est rendu la rue, là, ouais, le sol, ça. Là, tu sais. C'est là que ça cogne, là, tu sais. Fait que là, j'ai revolé à terre d'un côté, puis je me suis cassé tout ce côté-là, finalement, éclaté, là, tu sais.
Fait que la hanche, fémur.
Ouais, c'est ça. Fémur, bras, coude. Fait que tout vraiment, ça a monté là, les coudes, les bleus. J'étais vraiment magané. Puis, fait que ça a été tough parce que, tu sais, le fémur, c'est le plus gros os du corps. Là, il disait 6 mois arrêté. Fait que, c'est une. Je m'étais ramassé en chaise roulante parce que là, tu sais, je pouvais pas être en béquille parce que j'avais un bras de cassé aussi. Fait que je pouvais pas mettre mon poids sur mon bras, tu sais. Fait que j'étais en chaise roulante. Non, là, ma mère avait comme fait, OK, ouais, peut-être que ce serait un bon timing d'arrêter. T'sais. Ça, c'était en 2010. Hein.
OK.
Ouais, fait que là.
C'est-tu là que t'as arrêté de faire des sauts?
Non!
Non! Non, non!
Comment, toi? Non? Non, puis j'ai bien fait parce que, tu sais, un an et demi après, je signais mon contrat pour aller en Chine, tu sais.
Ouais.
J'avais recommencé, puis là, ben, quand les étoiles étaient alignées, puis je repartais, tu sais. Fait que. Ouais.
Comment qu'on arrête? Parce que là, t'as arrêté là, de l'enfer de la compétition de saut. Là.
Ouais.
Puis comment t'as décidé de prendre cette décision-là?
Ben, il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait en sorte que c'était comme la bonne décision à prendre, tu sais, parce que à un moment donné, la motivation est moins là. Après ça, t'as bien des blessures qui ressortent. Tu sais, que t'as de la misère à faire ce que tu faisais avant à cause de vieilles blessures. Moi, j'ai bien de la misère avec mes genoux. Surtout un de mes genoux qui est bien. Il a gagné pas mal, les ligaments, tout ça. Fait que ça, c'est des blessures qui restent, là, tu sais. Souvent, tu sais, les joueurs de hockey, ça fine. Écoute, Carey Price, là, ça reviendra sûrement jamais, son genou, là. Non. Puis lui aussi reviendra sûrement jamais à cause de ça, tu sais. Parce que, veux pas, tu le sais dans ta tête qu'il faut que tu fasses attention avec ce genou-là parce qu'il est plus fragile. Même s'ils l'ont opéré, tu sais ce qui s'est passé la dernière fois, puis tu veux tout le temps le protéger un peu.
Ouais.
Fait que veux pas, tu sais, comme pour
ça
un joueur.
Dans
ben oui, ça joue dans la tête. Pour un joueur de hockey comme lui, c'est mortel. Là. Il faut qu'il sacre ses genoux à tous les minutes. Là. Fait que ça marche pas. Fait que, en moto, c'est un peu la même affaire. Fait que là, il y a les blessures.
Y a des commotions?
Oui, ouais, des commotions, j'en ai eu. Après ça, ça fait longtemps que j'en ai fait. Quand ça fait 25 ans que t'en fais, là, à un moment donné, tu fais comme, OK, bon, là, j'ai fait pas mal ce que je voulais faire. Ça va m'amener quoi vraiment de continuer? Parce que les objectifs que j'avais, je les ai faits, je les ai dépassés, puis je me suis amusé. Puis... Fait que là, c'est comme refaire ce que je faisais il y a 15 ans. C'était vraiment ça. Fait que tu es comme, ben là, je l'ai fait, là, cette trip-là de show dans des rues, des affaires de même, dans des gros de centres de show, peu importe. T'sais. Fait que là, t'es quand même un petit peu moins intéressant. Puis la pandémie aussi. Fait que là, moi, je, ma dernière compé, je l'ai faite au stade en 2019. Fait que là, j'ai fait ça au stade en 2019. Après ça, la pandémie. Fait que là, t'es arrêté 2 ans de temps. Là, pas de motivation vraiment pour faire ça non plus. T'es d'en faire tout seul, tu sais pas. Fait qu'il y a ça. Fait que plein de facteurs comme ça, l'âge, les enfants, tout ça. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, OK. Fait que, tu sais, je suis encore impliqué là-dedans, mais je suis plus comme pilote. Juste, j'ai encore des promoteurs qui m'appellent pour des spectacles, peu importe. Ouais, je m'en occupe encore, puis j'organise encore une tournée de spectacles. Puis c'est mon nom qui est là-dessus encore, puis tout ça, puis les commanditaires, puis tout ça. Mais je le fais plus comme pilote. Fait que je le fais comme plus comme producteur de cette tournée-là. Après ça, du coaching. Fait que là, je fais beaucoup de coaching aussi l'été. Fait que là,
t'as une
académie. Initiation pour les jeunes. Ouais. On leur fournit les motos, c'est 100% électrique.
C'est cool, ça fait moins peur. Ouais. Pis...
Ben, c'est vraiment pour... C'est des jeunes qui n'en ont jamais fait. Les parents les amènent là parce qu'ils veulent savoir si le jeune vraiment aime ça, si le jeune veut en faire.
Ou... C'est une belle activité. Ouais, exactement. Aussi à exactement. Ça m'a amené, tu sais plus quoi faire avec ton hostie d'enfant. Puis tu sais, moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à mon frère et sa fille. Là, sa fille est tellement casse-gueule.
Ouais, elle aimerait ça.
Mais tu sais, c'est genre à 5 ans.
Ça commence à 4.
C'est ça.
On a les motos pour ça qui sont adaptées pour eux autres. Ils sont électriques, ils sont légers, fait que c'est super facile. T'sais. Fait que, anyway, fait que là, le coaching est arrivé là-dedans. Fait que je commence à faire plus de coaching. C'est ça. Fait que,
Là, c'est ça, avant qu'on se lève, je voulais aussi qu'on parle de ton podcast. Oui. Parce que c'est ça, t'as un podcast. Oui. Toi, puis je pense que t'invites pas mal n'importe qui du milieu du sport.
C'est ça, j'essaie d'avoir du monde qui ont un lien au moins avec la moto, qui sont pas juste hardcore motocross, par exemple. T'sais, j'ai eu Didier Scrannon, par exemple. T'sais, Didier Scrannon, c'est pas un coureur en motocross, mais c'est une figure connue quand même, c'est du sport motorisé, tout ça.
Ben, t'as eu Hugo Gérard.
Ouais, Hugo Gérard aussi.
Tabarnak, tu sais, il a quand même été un des hommes les
plus... Ouais, ouais, non, c'est ça.
Homme fort, du monde.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un mix, là, c'est ça, de monde de moto, de monde de face que le monde reconnaît. Puis, pour moi, c'est vraiment le fun de faire ça. Puis c'est pour ça que je tiens, d'ailleurs, puis merci de l'invitation, mais moi, j'étais un fan de podcast à la base. J'étais un fan de ton podcast. Puis j'en écoute, tu sais, puis j'en écoute plein. Fait que moi, c'est un médium que je trouve vraiment écœurant, tu sais. Vraiment, vraiment le fun. Fait que je dis, hey, on fait un podcast. Fait que là, j'ai trouvé une couple de commanditaires. Puis,
ça s'appelle comment?
Moto X Podcast.
OK.
Puis pour les gens qui veulent voir de quoi ça a l'air, ben, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme de streaming, comme Spotify ou Apple Podcast, puis c'est là. Sinon, si vous voulez l'avoir en vidéo, ben, YouTube est là. Fait que si vous tapez mon nom, Ben Milo, vous allez le trouver. Fait qu'il est disponible partout, puis... C'est ça. On l'a fait la première année, on l'a fait dans un studio. C'était vraiment cool. On avait vraiment un bon studio pour faire ça. Puis après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, après ça, tout le monde a commencé à faire des podcasts à distance par Zoom. T'sais. Puis c'est le fun. T'as pas besoin de te déplacer. Tu peux avoir des invités qui se déplaceraient pas sans
c'est
ça.
C'est ça, qui habitent loin.
C'est ça, exactement, qui le font à cause de ça. Puis ça coûte vraiment moins cher à produire aussi. Fait qu'il y a eu ça. Fait qu'après ça, on l'a fait en espèce de version Zoom pendant 2 saisons. Fait que là, on a 3 saisons de fête. 2 ou 3 saisons. Anyway, on a pas mal d'épisodes de fête. Puis c'est ça. Fait qu'on s'amuse avec ça. Puis c'est belle fin.
Ouais, ton dernier, ça, c'était avec Pierre-Luc
Gagnon. Ouais, un des derniers, c'était avec Pierre-Luc Gagnon. Puis, c'est ça. Fait que lui, j'ai su qu'il était redéménagé au Québec, puis ça, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un podcast ensemble.
Ah ouais.
Même s'il n'y a pas...
Ah, il a redéménagé au Québec,
lui? Ouais.
OK. Ouais. Bon, ça, je te poserai les questions à prendre hors cam. Hey, mais c'était vraiment cool, mon gars, man.
Merci, puis félicitations pour ton podcast avec... avec Raymond Boulanger.
Ah oh, oui, c'est ça, on s'en parlait tout à l'heure. Hey, t'es fin.
Malade.
Merci, mon gars, t'es vraiment gentil. Félix Séguin, Steve.
Oui, oui, je les ai tous écoutés, vraiment bon. Mais Raymond Boulanger, c'est un numéro en tabarouette.
C'est Steve malade, là.
Oui, puis la réaction de ta face, c'était drôle dans certaines de ses réponses. Ah oui. Tu fais comme...
Mais non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, si tu fais, ça dépasse l'imagination. Ouais. Fait que tu fais... Regarde, soit qu'il ment...
Il dit de la merde ou soit il a vraiment tué quelqu'un, là.
Tu sais, il est comme... c'est ça, il tirait. Nous autres, on a répondu « flac à flac ». Puis je suis comme « flac à flac ». Puis tu sais, genre, moi, je veux pas comme over-réagir non plus, là. Tu sais, j'essaie. Mais c'est ça, je te disais tout à l'heure, c'est que... moi, j'ai écrit sur Facebook.
Ouais.
Fait que quand il s'est pointé... Moi, je pensais que c'était un troll. Que là, il y avait mon adresse, hostie. Mais quand c'est pointé en avant chez nous, j'ai fait « Oh, OK, ah ben ça se passe. » Puis tu sais, moi, comme tu as pu voir tout à l'heure, hein? Je fais tout le temps un petit briefing avant de... Hein? Hein?
Ouais.
Puis là, lui, il me dit « Hey, ça me dérange pas, mais là, il te reste 58 minutes. Ah! » Parce qu'il m'avait dit qu'il y avait qu'une heure. Fait que là, tu sais, ça m'a tellement cassé.
Ah ouais.
Fait que là, on a tout de suite commencé, mais ça m'a comme un peu perdu. Ben, puis là, oui. Tu sais, c'était dans la pandémie. Fait que, tu sais, j'étais comme, en même temps, j'avais peur que tu refuses à cause de la pandémie. Mais Chris, c'est un gars qui a pas peur de se promener avec la plus grosse cargaison de coke dans son avion. Je pense pas qu'il va avoir peur de la pandémie. Il est comme, ouais, non. Il était sérieux. Ah, tu comprends? Puis ça terminait avec. Tu sais, on apprend que. Tu sais, il a tiré plein de monde. Puis après ça, il termine avec. Moi, comme... j'aime bien les châteaux. J'aime prendre soin des châteaux.
Alors, mais. C'est un personnage plus grand que nature. Puis qu'on un monde qu'on connaît pas. Puis qu'on comprend pas vraiment.
Ouais, c'est
lui,
ça.
Lui, il a vraiment été dedans. Puis je suis sûr qu'il se retient aussi sur plein d'affaires. Tu veux pas, là.
Ben oui.
Tu sais, il a dit,
ben
c'est sûr qu'il. Il dit pas tout, là.
Non, il y a des montées creusées.
Mais la meilleure que j'ai appris de qu'il a dit, là, parce qu'il a fait un podcast sur iHeartRadio aussi avec...
Sébastien Trudel.
Avec Sébastien Trudel, c'est ça. Puis c'est une mini-série de 3 épisodes, tu sais. Puis là-dedans, il va vraiment loin. Moi, la meilleure qu'il a dit, là, là-dedans, c'est que... Encore là, on se demande tout, écoute, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais qu'il connaît l'assassin de JFK. Ben, pas qu'il connaît, mais qu'il connaît... Il s'est fait dire par un tueur... Pas un tueur à gage, mais un gars qui travaillait pour le gouvernement américain, un peu comme il faisait, finalement, qui était en contrat, finalement, pour le gouvernement américain, pour des opérations spéciales, que cette personne-là, il avait dit que, OK, ouais, c'est un tel qui a tué JFK, puis... Ça, c'était comme wow!
Ben, moi, je sais qu'il y avait Lucien Rivard qui avait un peu rapport là-dedans. Ça, c'est un. Ça, peut-être qu'il aurait aidé à faire extradier. À le faire sortir du pays quand le tireur a tiré. Puis j'avais regardé un documentaire que, tu sais, les frères Kennedy, tu sais, Robert, JFK. Ouais, John, il était bien après la mafia.
Ouais.
Fait que ça a l'air que ça serait comme commandé par la mafia.
Ouais.
Puis là, ça arrête. Ah, tu vois, tu sais, il y a tellement de théories avec ça. Là. Mais bref, un gros merci, Ben Milo. Si tu veux que le monde te rejoigne, c'est où qu'ils peuvent faire ça? C'est...
Bon vieux Facebook.
Facebook, Instagram,
c'est Ben Milo.
YouTube aussi, YouTube, ton podcast est là-dessus.
YouTube, Ben Milo, puis les streaming.
Yes.
Voilà.
Ben, gros merci, mon
Good,
gars.
Merci à toi.
Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
Yeah. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen.
Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.